Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mon invité du jour.
Bah écoute, je suis vraiment ravi et enchanté effectivement qu'on puisse se rencontrer en vrai. Tu m'avais proposé de le faire à distance, mais c'était hors de question pour moi. Alors peut-être pour que les auditeurs comprennent bien quand même, je vais raconter. Tu me permets de raconter la petite histoire ?
Ah bah bien entendu.
Je suis très LinkedIn en ce moment, ça marche plutôt bien pour moi sur LinkedIn, sur ce réseau social là. J'aime bien raconter des histoires d'athlètes, puis passer un peu des fois des petits coups de gueule sur le monde du sport aussi. Et un jour je reçois un message d'une personne que je ne connais pas et qui me dit « Bonjour Barthélémy, j'aime bien ce que tu fais ». Sache que dans quelques jours, alors je crois qu'on était le 26 juin ou le 27 juin quand tu m'as écrit, dans quelques jours aura lieu le 33e anniversaire du plus vieux record d'athlétisme, je crois, de France, féminin, qui aura 33 ans. Alors, pour les auditeurs qui ne le savent pas, bon, je vais me dévoiler, moi, toi maintenant tu le sais, il s'avère que je suis né le 29 juin, alors forcément, et que j'ai eu... Ce dernier 29 juin, j'ai eu 33 ans. Donc j'ai un petit peu tilté quand même. Je me suis demandé d'avoir quelques éclaircissements. Surtout qu'il me semble que en plus dans ton profil LinkedIn, il n'y avait pas spécialement mention de sport ou que c'était un petit peu caché en tout cas. Donc je t'ai demandé éclaircissement et effectivement, le 29 juin 1990, en fin d'après-midi, tu bats le record, alors c'est 100 mètres haies chez les femmes, c'est ça ?
Oui.
Le record de France du 100 mètres haies féminin. C'est lors d'un championnat d'Europe, non, c'est pas un championnat d'Europe, c'est une coupe.
Non, c'est lors d'un meeting.
Meeting.
À Villeneuve-d'Ascq.
À Villeneuve-d'Ascq, exactement. Dont tu m'as envoyé la vidéo. et donc, ce qui était assez marrant, c'est qu'effectivement, tu bats ce record le jour de ma naissance. Et donc, comme j'aime beaucoup les jolies histoires et que je trouvais que cette jolie histoire commençait plutôt bien, nous voici là, aujourd'hui, pour que tu racontes ton parcours. Tu racontes un petit peu aussi forcément l'histoire de ce record. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et je te l'ai dit, bah, toi, t'as connu l'athlétisme avant que je naisse. Du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce qui a changé. J'ai l'impression qu'il y a des gens comme Nelson Montfort ou Patrick Montel qui n'ont pas trop changé, qui sont encore là. On fera peut-être une petite aparté. Mais du coup, voilà, j'étais un peu curieux de... Enfin, en tout cas, je suis là maintenant très enthousiaste de pouvoir échanger avec toi.
Et à quelle heure es-tu né?
Je suis né à 8h30 le matin. Il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Mon père m'a dit que dès 8h30, il faisait une chaleur pas possible. Voilà, ouais.
C'est rigolo.
Tu confirmes, il faisait très très chaud ce jour-là.
Il faisait chaud.
Peut-être un peu moins à Villeneuve-d'Ascq.
Mais... Si, c'était un jour très chaud, mais bon, à l'époque, il faisait chaud, on courait. Hein. Ouais. Pas encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Bien sûr. Maintenant, on fait des stades climatisés, donc tu vois...
Ouais, c'est ça. C'est fou.
Mais bon, tu vas pas y échapper à la tradition quand même. La tradition sur le podcast, c'est de commencer par ton premier souvenir de sport. Alors, quel est-il?
Mon premier souvenir de sport, de moi-même ou de quelqu'un de sport auquel j'ai assisté?
Je veux les deux.
Alors, j'ai eu un seul idole, j'ai jamais su si on disait au féminin ou au masculin, c'était Dwight Stones, c'était un sauteur en hauteur qui ressemblait à David Bowie.
D'accord.
C'était sa copie conforme et qui avait un t-shirt avec des Mickey. Donc ça, je l'ai vu à la télé et j'étais en admiration. C'est le seul souvenir d'athlète que j'ai vraiment. J'avais des posters, quoi.
Ouais. Hormis son t-shirt de Mickey, qu'est-ce qu'il avait de...
Il ressemblait à David Bowie. C'était un grand sauteur américain. Je sais même pas. Aujourd'hui, je suis incapable de dire quelle était sa performance. Il était dans les meilleurs athlètes des années. Donc, si j'étais petite, on va dire que c'est les années 75-80.
Ouais.
Et j'étais fan de David Bowie surtout. Mais ouais. Et comme Dwight Stone, c'était David Bowie qui faisait son hauteur. Et puis alors ma compétition, alors ma première compétition, mon entraîneur, alors j'étais poussine, mais on m'avait surclassé pour courir en Benjamin sur un 50 mètres et puisque c'était des petites distances, et j'ai passé les 5 et je me suis arrêtée derrière la et. On a oublié de me dire qu'il y avait une ligne d'arrivée, et moi, il faut tout me dire. Enfin, il fallait. Et en fait, j'étais en tête, je me suis arrêtée toute contente, et mon entraîneur hurlait en disant, continue. Ma sœur était pliée de rire, moi, je me suis vexée comme un pou. Et, ça a été dans la légende, on m'a toujours dit, t'oublies pas, hein, tu vas au bout. Donc, un peu simplette, la fille, quand elle a commencé.
Pas forcément simplette, mais peut-être un peu naïve. Mais c'est vrai que d'un point de vue logique, on pourrait penser que ça se terminait à la dernière R.
Merci, tu es gentil de
non, mais
être
c'est vrai.
Dans ma logique. Voilà, ça c'est la petite anecdote.
Donc tout de suite, on t'a mis sur les...
Non, j'ai fait de tout, mais là c'était la première compétition, c'était des... Non, j'ai commencé par les épreuves combinées, moi j'ai fait de l'heptathlon,
ouais.
Jusqu'à... Enfin d'abord c'était du triathlon quand on est petit, puis pentathlon, et heptathlon j'en ai fait jusqu'au championnat d'Europe junior. Au championnat d'Europe junior, j'étais qualifiée donc sur le 100 mètres haies et en heptathlon, et j'ai gagné le 100 mètres haies et battu le record d'Europe junior. Et j'ai fait 4e à l'heptathlon. Alors, c'est pas pour ça que je suis passée ensuite uniquement sur 100 mètres haies. J'adorais l'hepta, mais l'hepta, ça voulait dire entraînement 2 fois par jour, tous les jours. Et je ne voulais pas faire du sport comme ça. Je voulais vivre ma vie à côté.
Ça veut dire quoi, vivre sa vie?
Ça veut dire continuer ses études, travailler, etc., etc. Ce que j'ai fait jusqu'au bout.
D'accord. T'as fait des études de quoi?
Oula. J'ai fait du droit, j'ai fait du journalisme au CFJ, ça s'appelle plus comme ça je suppose, et puis ensuite j'ai travaillé dans la communication, et puis après j'ai évolué, mais j'ai passé mon bac l'année des championnats d'Europe junior, Il est championnat d'Europe 1990. À l'époque, je travaillais, est-ce que j'étais encore à la mairie de Créteil ou à Temps Sport, qui était une agence de photos de sport. Je ne sais plus, mais j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma carrière.
D'accord. Écoute, ça tombe bien que t'en parles, parce que j'ai l'impression que le double projet revient à la mode chez les athlètes là maintenant, parce qu'on se rend compte un peu du dégât que ça peut faire humainement sur des personnes de ne plus suivre d'études et d'être cloisonnées dans le monde du sport. Qu'est-ce qu'il en était, toi, à ton époque? Est-ce que c'était le début de cette période où on disait aux athlètes, ne faites que du sport? Est-ce que encore très peu d'athlètes en vivaient? Donc c'était même pas une question et tout le monde avait un double projet, hormis peut-être quelques exceptions, tu vois. Quel était le paysage à l'époque?
Alors, le paysage, il était plutôt déjà aux entraînements bi-quotidiens.
Ok.
Ouais, oui.
Donc la professionnalisation des athlètes.
Alors, moi, j'appelle pas ça professionnalisation, parce que professionnalisation, ça veut dire qu'il y a des rémunérations qui vont avec. Donc, du coup, c'était l'investissement des athlètes, et puis pas forcément, mais on courait pas. C'est justement, le but n'était pas d'être pro. Il y avait un but, c'était je veux être champion olympique, je veux être champion d'Europe, je veux faire ça, ça ou ça. C'était pas la rétribution. Moi, j'ai fait autre chose parce que pour moi, bien sûr que j'ai gagné plus d'argent, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se gagne aujourd'hui. J'ai gagné plus d'argent à travers le sport qu'en travaillant. Mais c'est, pour moi, c'était un plus et c'était provisoire, transitoire et c'était la cerise sur le gâteau, mais pas l'objectif.
D'accord.
Mais par contre, c'était vraiment quand j'étais junior déjà, au championnat d'Europe junior qui avait eu lieu en enfin, c'était la RDA, l'Allemagne de l'Est à l'époque. Et encore, il y avait un mur et tout.
Je t'ai dit que j'adorais l'histoire. Donc
En dehors du fait que j'avais créé la sensation parce que j'étais une Européenne de l'Ouest qui battait un record qui était détenu par les filles de l'Est, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient soviétiques, qu'elles soient bulgares, c'était la chasse gardée des pays de l'Est, le 100 mètres haies. Quand à l'interview, j'ai dit que je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine, à l'époque, en junior, dans l'article de journal, il y avait écrit en allemand que j'avais raconté des conneries à la conférence de presse. Pardon l'expression, mais il va y en avoir d'autres, hein, comme ça. Et c'était le cas. C'était le cas. Et puis je dansais à côté, je faisais autant de danse que d'athlétisme. L'athlée, pour moi, ça a toujours été un plaisir. Un plaisir que j'ai fait à 300%. Quand j'étais sur le stade, j'étais à 300%. J'ai essayé de m'entraîner 2 fois par jour parce que là, je dévie vite, mais mon premier entraîneur est un prof de maths, mon premier et dernier entraîneur, puisque j'ai repris avec lui après la naissance de ma première fille. Donc cet entraîneur était amateur, hein, bien entendu, c'était sur son temps libre. J'ai fait de l'athlé avec lui jusqu'à 18 ans et pour des raisons personnelles, il a arrêté d'entraîner et donc à ce moment-là, je me suis tournée vers la fédération et on m'a proposé l'entraîneur national qui était Fernand Hurtebise à l'époque. Donc j'ai intégré le groupe de Fernand, mais le groupe de Fernand, je suis passée de mes 2 ou 3 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour avec de la muscu le matin. Je faisais pas encore de muscu parce que j'étais encore toute beaucoup plus freluquette. Et j'ai fait 3 ou 4 mois, mais à 3 ou 4 mois à souffrir, à aller au stade comme ça, en souffrant, en ayant mal partout, etc. Je crois que 15 jours avant les championnats de France universitaires, je crois, hein, parce que les souvenirs, ils commencent à être... Je suis rentrée à Montpellier, j'ai dit à Fernand, je prends pas les plans d'entraînement, je fais de la PPG, de la préparation physique générale, et je fais 2 compétitions sur 200 mètres, sur 100 longueurs, je me change les idées. J'avais perdu 1 seconde sur 100 mètres, oui. J'avais fait un meeting où j'avais fait 13 secondes 90 et la course suivante, j'ai refait 12,98 ou un truc comme ça. On m'a dit, c'est parce que le travail paye. Non, c'était le repos qui payait chez moi. Okay. Mais ça, c'était moi. C'est pas tout le monde.
Bah, on oublie quand même de dire que la récupération est d'autant plus importante que l'entraînement, quand même.
Oui.
Mais on s'entraîne pour bien récupérer, en fait. Mmh. Tu vois, c'est pendant que tu récupères que tu te reconstruis, que ton corps assimile et que ton cerveau se prépare à faire mieux la prochaine fois.
Oui, moi, ça me paraît important.
Chez certains, c'est long, d'autres, c'est court.
Mais... Ça me paraît important, évident. Mais après, il y a des disciplines. Et alors, j'incrimine pas du tout Fernand, hein. C'est que moi, ça ne m'allait pas du tout. Mais, de m'entraîner deux fois par jour. Mais il y a des disciplines où ça, c'est difficile de faire autrement. Un décathlonien avec ses 10 épreuves, il est obligé d'y être sur la piste. Mais il est important. Enfin, moi, il était absolument nécessaire que, j'ai ma vie, que je sorte avec parcimonie. J'ai appris à le gérer, ça. Il y a eu des ratés. et que j'arrive, mais que j'ai envie d'être sur le stade. Et j'ai toujours eu envie, jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, ah, en fait, ça me plaît plus. Je m'amuse plus. Mais j'ai arrêté.
Ouais, ok. T'as dit une phrase, alors pendant qu'on est un peu sur le sujet quand même, parce que t'as dit une phrase qui m'a un peu interpellé, parce que tu m'as dit, j'ai gagné plus d'argent dans le sport, mais j'étais pas pro. Comment est-ce qu'on gagnait de l'argent à l'époque? Parce que maintenant, je vois, il faut des contrats avec des marques. Alors, il y a les prize money, bien sûr, mais qui sont pas exceptionnels et qui permettent pas de vivre. C'était le même système à l'époque d'avoir, je sais pas, des aides d'entreprises ou d'institutions comme les régions, du mécénat, et d'avoir ou des contrats un peu de professionnalisation comme il peut y avoir maintenant avec l'armée, la SNCF, ce genre
de... Oui, il y avait un petit peu de tout ça déjà, mais...
D'accord, c'était donc, la même chose.
D'autres niveaux de tarifs. Moi, mon tout premier contrat, c'est Nike. Mais mon tout premier contrat Nike, c'était des équipements. Mais mon premier colis Nike, je me rappelle de ce qu'il y avait dedans.
Il y avait quoi dedans?
Il y avait un t-shirt bleu avec un Nike blanc. Il y avait un short bleu foncé brillant. Il y avait mes premières vraies pointes. Parce que jusque-là, je récupérais... C'était des pointes d'occasion que j'avais. Non, mes toutes premières pointes, c'est mon papy qui me les achetait. Il y avait la tête de Guidru derrière. C'était une marque qui s'appelait Hunga.
OK.
Il faudrait faire des recherches. Je pense que ça n'existe plus du tout, du tout. Et depuis fort longtemps, j'ai peut-être acheté les dernières. Mais après j'ai eu des sponsors, enfin j'ai eu Nike puis Poivre Blanc, mais ça j'avais innové aussi, ça c'est une histoire de ma vie où j'ai pas voulu faire comme les autres parce que je trouvais qu'ils étaient pas à l'époque rigolo avec moi. Et il y avait Nike, il y avait l'aide de préparation olympique une fois que t'avais mis un pied dans le niveau qu'on appelle élite maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des petits émoluments au niveau des clubs d'athlétisme. Et puis il y avait les primes de participation dans les meetings internationaux. Dans les meetings la Golden League, ça s'appelle comme ça?
Oui, Golden League.
Ouais, c'était le Grand Prix. Le Grand Prix d'athlée. Tu négociais ton engagement, tu négociais ta prime de résultat,
avec les sponsors ou avec
avec le meeting, l'organisateur du meeting.
Donc c'est l'organisateur du meeting qui te payait pour que tu viennes et tu négociais aussi une prime de victoire. Et quand plus t'étais un athlète performant, plus la prime était élevée.
Pas forcément. Je dis pas forcément parce que quand je dis que c'était de la négociation, c'était de la négociation. Moi, j'avais pas de manager. C'est une époque où on faisait la queue dans les couloirs après la course.
Pour aller chercher votre chèque.
Votre liquide.
Ok. Il y avait combien dans les enveloppes sur un meeting comme ça?
C'était, putain, je vais te parler en franc. Punaise, pardon.
Mais c'est pas grave.
Ah, mais oui, mais,
C'est pas des anciens francs, j'espère, parce que là, le calcul va être compliqué à faire pour
non,
moi.
Non, ça, c'est ma grand-mère qui parle en ancien franc.
Je te faisais la blague.
Non, mais obligé de la faire un moment. C'était du 15 000 francs. C'est pas une histoire de, quand je dis que j'ai gagné plus d'argent en étant athlète, mais c'est sur 2 ans ou 3 ans.
Ouais. Les années où tu gagnes
mais,
tout, quoi.
Mais c'est incomparable. C'est incomparable. C'est-à-dire, tu veux, le meeting, le Grand Prix, le vainqueur du Grand Prix général, à l'époque, gagnait $100 000.
D'accord.
Le grimpeur. Le vainqueur, toute discipline confondue, homme-femme. Il gagnait 100 000 dollars.
À quelle compétition?
Le Grand Prix, l'équivalent du Golden...
Donc de tout le tournoi. D'accord. Ok. Et pour les championnats du monde?
Les championnats du monde, c'est pas, t'as pas de rémunération. C'est un championnat.
Donc quand t'es championne d'Europe et vice-championne du monde en salle, il y a pas de rémunération.
Pas de rémunération par la fédération à l'époque. Est-ce qu'il y avait une petite prime peut-être? Je suis pas sûre.
Les sponsors, rien.
Le sponsor, oui.
Ok.
Mais t'avais intérêt de l'avoir prévu avant.
Ouais. Donc faut croire en toi et oui, espérer que tu vas gagner. Ouais. Ok. Donc si je comprends bien, il y avait effectivement cette ligue qui était beaucoup plus intéressante financièrement que les autres.
Si c'est ce que t'appelles si la tu ligue, gagnais. c'est la série de meetings du Grand Prix.
Ouais.
Oui, mais c'était pas, j'ai jamais fait toute la série moi. Parce que j'ai essayé une fois où il y avait un championnat qui était relativement tôt, je sais plus lequel. C'est très précis ce que je raconte. Et derrière, j'avais dit, mais c'était vraiment pour m'amuser. C'était dire, je vais le faire à l'américaine, je vais faire les 10 meetings qui suivent, aller tous les deux jours dans une autre ville, etc., ou dans un autre pays. Et j'en ai fait deux. Je me suis claqué. Parce que les Américains, après les meetings, moi, j'avais passé l'objectif de ma saison, c'était le championnat. Je fais les meetings, c'était vraiment pour m'éclater, mais à tous les niveaux. Donc si tu cours et que le soir tu sors jusqu'à je sais pas quelle heure, qu'au petit matin tu prends la navette pour aller à l'aéroport suivant, entrer dans tes sacs machin, pendant que les pros ils ont des gens qui leur portent leurs affaires, ils sont pris à part, etc. Enfin, moi j'en ai fait deux quoi, et je suis revenu sur une patte en disant c'est pas mon truc l'enchaînement. Mais donc oui, non, je... Ces deux objectifs, enfin, on faisait de l'athlétisme pour gagner de l'argent. Ceux qui faisaient de l'athlétisme pour gagner de l'argent, ils étaient pas français, ils étaient américains. Quand ils arrivaient, ils faisaient la tournée des meetings et eux, c'était leur jackpot, quoi. Mais je crois pas, enfin. On était dans le, enfin moi en tout cas j'étais, si cette année c'est les championnats d'Europe, si pour arriver aux championnats d'Europe il faut que j'ai trois courses où je suis avec de la grosse opposition, ce sera ces trois courses là. Mais si on a sept avant où c'est possible de faire ça, je fais pas les sept. C'était organisé avec l'entraîneur, avec Pierre.
Ouais, d'en faire peu. Vous optimisiez la saison pour le résultat beaucoup plus que sur l'argent, quoi.
Moi, oui. Parce que tu dis vous, mais je peux pas parler au nom de tous les autres.
Il y avait des athlètes français qui gagnaient très bien leur vie à l'époque.
Très bien sa vie, ça devait se cantonner aux perchistes. Et encore, le très bien n'a rien à voir avec maintenant. Ben, les plus grands, les perchistes ont ramené beaucoup de médailles. Oui. La perche a souvent été médaillée en championnat, mais je suis en train de chercher un champion olympique. De toute façon, c'est vraiment le passage, la transition, c'est un peu, je dirais que c'est l'époque de Marie-Josée Pérec, qui arrive à la fin de ma carrière. Elle est championne olympique à Barcelone en 92.
Oui.
Je vais pas parler à la place de Marie-Jo, mais je pense que c'est une des premières à voir. Mais en même temps, c'est une des premières à avoir des résultats pareils aussi.
On n'a jamais vu ça, oui. Et puis, on l'a pas retrouvé depuis, hein, excuse-moi, mais voilà. Difficilement.
Donc, vivre, je suis en train de réfléchir. Des copains qui... Moi, il y avait une coureuse de 100 mètres haies qui a fait des jeux... Florence Coll, elle est aujourd'hui, c'est la chef de neuro de l'hôpital La Salpêtrière. Si je dis pas de bêtises, c'est La Salpêtrière ou c'est Saint-Maurice, je ne sais plus. Elle a fait ses études de médecine pendant sa carrière d'athlète. Donc et c'est pas forcément que c'est un autre temps. C'est que petit à petit, on a, moi je trouve qu'on copiait beaucoup les autres pays qui s'entraînaient beaucoup, et aujourd'hui il y a des pays nordiques qui disent les Français vous entraînez trop. Alors là je parle parce que j'ai vu mes copains qui sont encore de l'athlé, hein, parce que sinon ça je ne sais pas ce qui se raconte aujourd'hui. Mais c'était une mode, enfin une mode. C'était l'ère du temps, le gros entraînement, les grosses charges de muscu le matin. Moi, je vois sur les discussions que j'ai pu avoir sur quelques athlètes que je suis sur les réseaux, etc. Je vois les matériels, les techniques, les entraînements. Enfin, tout est tellement plus riche d'exercices de possibilités. Il y avait le suivi médical est différent aussi. Il y a plein de choses. Les pistes ont évolué. Enfin, moi, j'ai commencé, j'étais sur de la cendrée quand même.
Mmh.
Ben oui.
Tu peux expliquer pour ceux qui savent pas ce que c'est?
C'est de la terre. C'était une piste en terre. J'ai commencé sur une piste en terre. Et quand je dis commencer, c'est jusqu'au championnat d'Europe junior. Et j'ai vu ma première piste en synthétique au championnat de France, mes championnats de France en cadette ou un truc comme ça. Mais à l'époque, c'est génial.
Tu m'étonnes que tu bats des records, attends.
Mais oui, mais oui.
Ça rebondit après.
Mais oui. Il y a quelques réglages à faire, mais tu te sens des ailes quand t'arrives sur une piste comme ça, bien sûr. Mais quand je suis arrivée à Paris et que quand j'ai rejoint le groupe de Jacques Piacenta après mon passage avec l'entraîneur national, j'ai choisi d'aller avec Jacques Piacenta parce que je connaissais sa façon d'entraîner, le rythme d'entraînement. J'ai d'abord demandé si on s'entraînait quand il pleuvait. Il m'a regardé en disant, elle est bien, elle est en région parisienne, elle me demande si on s'entraîne quand il pleut. Et le premier hiver, j'ai déblayé mon couloir de neige en me disant, c'est quoi ce pays? Nous, quand il pleuvait, on pouvait pas s'entraîner. C'était de la gadoue dans ce cas-là, la cendrée.
Ouais.
Donc, je te parle pas des pointes et des chaussures et des trucs qui ont tellement évolué depuis, quoi.
Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une grosse évolution technique, tu vois, sur l'athlétisme sur les 30, 40 dernières années, quoi. Ça, c'est sûr. Ok.
En même temps, si on prend les 30-40 années avant ma carrière, c'était les pointes en cuir avec 4 clous dessous, hein. Je pense que l'évolution, elle est assez semblable finalement quand on regarde.
Effectivement. Je le voyais pas comme ça. C'était la bonne époque?
Je crois que oui. Alors, je crois que oui, mais je voudrais pas faire la vieille conne. Non, parce que c'était mieux avant. Je crois que
on le dit tous.
On
hein.
le dit tous.
Surtout le rap.
mais déjà, une des choses qui pour moi est essentielle, c'est qu'il y avait pas les téléphones. Il n'y avait pas la possibilité d'être pris en photo et filmé n'importe où, n'importe quand. Quand je dis qu'on était vivant, c'est qu'on était vivant après les épreuves. Et des trucs de barge qu'on a pu faire après les compétitions, mais ça fait partie aussi des souvenirs immémorables. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, alors je vais me prendre que moi, je vais pas parler des autres, mais on en a fait plein. Aujourd'hui, c'est si je suis filmé en train de faire une de mes bêtises de l'époque, ça passe partout. Ça passe partout, c'est pas entre nous. Ça empêche de. Enfin, tu te tiens, quoi. Tu te tiens, mais quand on a un objectif, quand t'arrives aux Jeux Olympiques, c'était ça que tu vises depuis 3 ans, tu travailles là-dessus, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, une fois que c'est fini, t'as envie de profiter, t'as envie de, t'étais là dans un village où il y a, à l'époque, t'étais dans un village parce qu'aujourd'hui, ils arrivent et ils repartent. Nous, on restait les 15 jours ou les 3 semaines des Jeux, toutes les équipes de France confondues, c'était fabuleux. On faisait des rencontres incroyables et c'était dingue le village olympique. Aujourd'hui je vois, il y a tellement de jeux où l'athlète arrive la veille de son, ou n'importe quel sportif arrive de la veille, pour des raisons économiques on reste pas 3 plombes dans les logements et repart au lendemain de son épreuve. Je trouve ça absolument horrible. C'est une torture, je pense.
Mais je vois très bien, ouais. Je vois très bien. Ouais, du coup, tout ce qu'on peut dire, tous les mythes qu'il peut y avoir sur le village olympique, ils datent plus, si tu veux, de l'époque que maintenant, quoi. C'est sûr que je vois mal... quand j'en parle aux athlètes, c'est un peu l'impression que j'ai, en fait. Que peut-être jusqu'à Londres, tu vois, 2012, grosse fiesta, et puis là, ça change. Maintenant. Mais... C'est marrant que tu parles de ça parce que ouais le métier d'athlète il s'est complètement transformé je trouve avec l'apparition des téléphones parce que c'est l'argument que t'as mentionné en premier. Déjà le niveau de performance et de technologie a changé en tout cas. Les entraîneurs sont beaucoup plus exigeants, beaucoup plus pointilleux. Il y a un peu moins appel au sens tu vois j'ai l'impression. C'est plan d'entraînement chiffré avec des données. Tout ça et en plus le fait qu'il y ait un téléphone ça a beaucoup de conséquences c'est que effectivement les athlètes deviennent des espèces de personnalités publiques qui doivent être exemplaires qui n'ont plus le droit enfin qui n'ont le droit de montrer que l'athlète en fait et pas de montrer autre chose et je pense que ça crée une espèce de forme de schizophrénie je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas ça noie un espèce d'enfant intérieur tu vois qu'on a tous qui a besoin de se lâcher. Et aussi, l'autre truc des téléphones, c'est que du coup, les athlètes deviennent des ambassadeurs, des créateurs de contenu, et qu'ils ont plus aucune raison, vu qu'ils ont un téléphone dans leur poche avec un appareil photo et de quoi poster sur les réseaux sociaux, ils ont plus aucune raison de ne pas être des créateurs de contenu. Et ceux qui ont pris le pli, peu importe les résultats, explosent financièrement. Et ceux qui ne prennent pas le pli, parfois avec de très bons résultats, galèrent, quoi, tu vois. Donc le métier un peu a changé. En tout cas, tel que tu me le racontes et de ce que je vois et comment je fais l'analyse maintenant. Moi, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui me disent, j'ai envie d'être riche, je leur dis, mais arrête de te concentrer sur la performance. Regarde tout ce qui est à côté. Apprends à négocier tes contrats, apprends à créer du contenu, apprends à parler à une audience, apprends à le jeu des médias. Apprends à qu'est-ce que veulent les entreprises. Comme moi, quand je vois des athlètes qui disent s'il vous plaît aidez-moi financièrement, ça me fait rire. Parce que et t'as d'autres athlètes qui font différemment, qui disent si vous me sponsorisez, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça, je vais vous apporter ça. C'est différent que de dire aidez-moi, tu vois. Mais bon, là je vois que t'as plein de choses à me répondre. J'ai été long, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je voulais te dire que en tout cas effectivement, je sais pas si c'était mieux avant, tel que tu me le racontes. J'ai quand même l'impression que oui. Moi, mes parents étaient fans de tennis et le grand modèle, c'était Yannick Noah, tu vois. Or que pourtant, tu vois, on est une famille un peu reliée, enfin, comment dire, très traditionnelle française, avec, tu vois, et pas spécialement des origines d'Europe de l'Est, tu vois. Donc, c'est pas trop il y avait moins la fête mais moi le grand exemple à la maison c'était Yannick Noah. Tu vois, c'était le sport et la fête. S'il y a pas de sport et de fête, le sport n'existe pas en fait. J'ai un peu l'impression que c'est ce que tu dis et que maintenant aujourd'hui la fête n'existe plus. Qu'elle est plus dure à voir.
Alors, je ne suis pas partout, je vais déjà revenir. Vas-y. Sur tu as dit le métier d'athlète, tu l'as dit deux fois, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Tu peux t'y consacrer.
Pourquoi? Dis-moi, j'attends.
Parce que t'es pas salarié et t'es pas chef d'entreprise.
T'es freelance. T'es indépendant.
Alors, aujourd'hui, maintenant, ils prennent un statut, je sais même pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai essayé de savoir comment verser mon URSSAF, etc. Parce qu'il y avait pas. Parce que moi je cochais pas les cases, c'est-à-dire que j'étais salarié puisque je travaillais et j'avais des BNC puisque j'avais un sponsor, etc. Et quand j'allais à l'URSSAF pour dire je me déclare où, jamais de la vie j'aurais pu imaginer que j'ai devancé ça. À l'époque on n'arrivait pas à me répondre, ils savaient pas. Mais aujourd'hui quand tu décides d'être athlète de haut niveau, enfin, je peux pas parler à la place des autres, mais j'avais envie de revenir, c'est sûr, l'athlète qui me dit qu'il veut gagner beaucoup d'argent, je lui dis, ne te concentre pas sur la performance, concentre-toi, toi, sur, ça y est, je vais tout casser. Concentre-toi sur le, sur comment gagner de l'argent, sur tout ce que t'as à faire. Non, mais s'il se concentre là-dessus, il va pas faire de performance, le gars, quoi.
Et alors?
Eh ben, alors, il va, il sera pas athlète de haut niveau.
Ben, si.
Et pourquoi? Il sera un entrepreneur, mais il va pas avoir de résultats.
Non, mais tu vois, comment ils font, mais c'est des entrepreneurs, tu vois. C'est tous des entrepreneurs.
Ils ont des équipes. Ceux, les grands, je sais pas de qui tu vas parler, mais
Bien sûr, mais il faut bien commencer quelque part, tu vois. Il faut bien commencer quelque part. Et il y en a qui commencent quand même par eux-mêmes, tu vois, à faire tout ça. À faire ce travail-là. Mais... Tu vois, quand je vois, par exemple, Renel Lamotte.
Ouais.
Je sais pas combien elle gagne. Je vais lui demander. Je vais retourner la voir à Montpellier, je vais lui demander. En off. Ou en public, si elle veut. Renel, si tu nous écoutes. L'appel est lancé. Mais elle crée tout son contenu tout seul. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a rien. Et aujourd'hui, les sponsors savent à quel point c'est précieux parce qu'elle a une communauté terriblement engagée. Et Renel, tu vois, elle le transforme pas en argent parce que, en tout cas, de ce que je vois, ou très peu, mais elle aurait un énorme potentiel, tu vois.
Mais c'est peut-être son tempérament.
Exactement.
C'est son tempérament de partager tout ce qu'elle vit et ça lui correspond. Mais c'est pas pour autant que ça doit être fait par chacun et que ça convient à chacun. Pour moi, un sportif de haut niveau, quel qu'il soit, y a son être. Il y a comment il vit la chose, comment il a besoin de faire son sport, de quoi il a besoin d'être entouré, et plutôt que de dire ok, tu veux, il te faut des sous, bon, alors tu dois poster sur les réseaux, faire ci, faire ça. Et quand j'entends ou je vois aussi des athlètes ou des sportifs qui disent aidez-moi, quand tu es à, je veux le dire comme ça, un poil de cul des minima pour les championnats du monde et que tu es un lanceur de je ne sais quoi, peu importe. Une discipline qui est pas prisée.
Entre guillemets, tu montrais les guillemets, mais
ah oui, mais
vu qu'on est, il y a la vidéo, mais beaucoup à l'audio, et tu
oui,
m'étais prisé sur.
Il va vous manquer beaucoup de mains, hein, parce que qu'avec les mains. Un athlète d'une discipline qui n'est pas prisée, qui est très difficile, une discipline qui demande de s'entraîner beaucoup, qui travaille à mi-temps. Parce que sinon, il a pas assez, parce qu'il ne, il n'a pas, comme il a pas encore fait le championnat du monde, il est pas classé dans les élites, donc il est pas dans le cercle, je sais pas quoi, dont on a parlé hier avec les copains, mais je découvre que c'est encore plus compliqué qu'avant. Il doit payer son loyer. Il doit parfois trouver ses équipements, s'acheter ses équipements parce qu'il n'y a pas d'équipementier qui l'aide. Il doit être performant. Ben ce mec-là, il n'a pas le temps. Et puis si son tempérament c'est pas de œuvrer, son tempérament c'est de d'œuvrer sur la piste. Si lui son fond c'est pas s'il a pas d'appétence pour poster sur les réseaux, pour démarcher des marques, des sociétés, des boîtes, etc. Eh ben, il demande de l'aide et ça me choque pas. Ça ne me choque pas parce que il n'intéressera personne de toute façon. Enfin, je dénigre pas le lanceur de poids, de marteau ou de je ne sais quoi. C'est que il sera pas dans ce créneau là. Donc, il faudrait créer tout de toute pièce et qu'il s'y retrouve, que ce soit lui qui s'exprime. Renel, c'est elle qui s'exprime, elle est comme ça. Et pour moi, c'est tout le monde n'est pas comme ça.
Mais c'est pour ça que je te dis que le métier d'athlète, il a changé.
Et moi, je continue de dire que c'est pas un métier. Et on va se mettre sur la tête avant la fin du truc.
Non, mais c'est drôle. Moi, j'adore débattre. Donc, forcément, je vais te titiller et je t'ai prévenu. Mais, c'est pas un métier. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui en vivent où faudrait définir métier, effectivement. T'as peut-être raison. Mais alors, comment on t'estime que sur une piste, un départ des 100 mètres, par exemple, au départ du 100 mètres F féminin au championnat de France, comment t'estimes qu'il y en a une qui en vit, probablement, tu vois, avec peut-être un ou deux sponsors, des conférences en entreprise, un équipementier qui la suit, que les autres, elles bossent à plein temps, Donc elles sont toutes au même endroit, mais effectivement elles n'ont pas le même métier, quoi. Ça c'est sûr. Mais elles font la même activité.
Et non, elles font, enfin oui, elles font le même sport, mais elles n'ont pas le même métier. Mmh. C'est tout.
Donc on est d'accord que le métier d'athlète, c'est sur pas sur la piste, c'est ce qu'il y a en dehors. C'est à partir du moment où t'arrives à créer de l'argent en dehors de la piste que c'est ton métier. Et si tu utilises ton image d'athlète pour, en dehors de la piste, utiliser cette image d'athlète, générer des profits, là on peut dire que sportif de haut niveau, athlète, comme appelons comme on veut, devient un métier. Mais tu utilises l'image de ton sport et de ton activité, quoi, de ta passion. On pourrait le définir comme ça ? Pas facile.
Ouais, pas facile. J'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai trouvé un exemple d'un autre truc.
Mais pendant que tu réfléchis, justement, j'appelle les auditeurs et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez, vous? qu'est-ce qui est pour vous un métier? Est-ce que vous pensez qu'athlète de haut niveau est un métier? Est-ce que athlète n'est pas un métier? On fait la distinction maintenant de athlète et athlète de haut niveau. La frontière est très fine. C'est pour ça que c'est très dur de se positionner. Mais en tout cas, je voulais t'amener sur ce terrain-là quand même. Tu vois, ce débat est intéressant. C'est un débat de fond.
Oui, mais les sports professionnels sont considérés comme tels. On les connaît.
Les sports de club.
Non, les sports professionnels, le foot.
Ils sont en club. Ils ont un club qui les salarie, tu vois.
Ils ont un club qui les salarie, qui les emploie à des sommes. Mais ce sont des sports professionnels. Avant, c'était pas aux Jeux Olympiques, ces sports-là.
Ouais. Mais maintenant, tu sais que même en division 2 de volleyball, peu importe le genre, ils sont pros. Mais ils touchent pas beaucoup d'argent, mais ils sont pros.
Oui. Mais il faudrait voir avec la liste du ministère, mais il y a des catégories de sport professionnel et l'athlète n'est pas un sport professionnel. C'est pour ça que je dis que c'est pas un métier.
Tu vas me présenter des gens, hein, qui vont m'expliquer tout ça. En détail. Si t'as des copines ou des copains athlètes qui connaissent, qu'on fait le truc récemment, je suis hyper curieux de savoir.
Ah oui, mais ça, je peux te présenter du monde. Oui.
Tu as trouvé ta réponse de ce que tu voulais me dire? Sinon,
j'ai oublié où on en était.
Tu me disais que tu cherchais l'image d'autres athlètes. Je te faisais la comparaison du 100 mètres haies de 8 filles et qu'elles n'ont pas du tout toutes le même statut.
C'est un peu comme si tu me disais, il y a une classe de 30 élèves qui se présentent au bac. Une classe de 30 élèves qui se présentent pour une grande école truc-muche, ils ont tous travaillé et il y en aura un qui va aller dans cette grande école parce que au niveau de sa familiale, etc., il a la possibilité il peut intégrer un appartement, une ville, etc. Et c'est juste pas la même, ils jouent pas sur le même, c'est pas au même niveau financier et sportif, mais ça c'est sur un 100 mètres haies que ça va être, c'est ton niveau de résultat, mais maintenant là-dessus t'ajoutes ton niveau, ta notoriété sur les réseaux, ton niveau si t'es bankable ou pas. Alors sur 100 mètres haies ça va vite se repérer, c'est une histoire de résultat. Mais ça, tu vas ajouter aussi qu'il va y en avoir une qui va être plus jolie que l'autre, donc ça a marché mieux, etc. Qu'est-ce que ça vient foutre dans le sport, ça?
Ouais, mais t'as quand même mentionné tout à l'heure dans ton cas, avec l'histoire de cette ligue-là, avec les meetings,
oui,
qu'il y avait des prize money. Donc tu gagnes quand même ton argent directement de ta performance. Alors c'est ça qui est compliqué, je trouve, dans le sport aujourd'hui, c'est que dans certains sports, tu vas être rémunéré à ta perf, et du coup, ça vaut le coup de performer. Clairement, je pense au triathlon, par exemple. Il y a plein de ligues. Et aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, alors certes, tu dois avoir des sponsors, ils ont des contrats avec l'armée, mais il faut avant tout performer. Et d'autres sports où, en fait, la performance, elle passe au second degré. Parce que ce qui compte, c'est l'image. Tu vois. Et tu le vois d'autant plus dans les sports, peut-être un peu plus de montagne, tu vois. Moi, j'ai rencontré des athlètes qui sont des skieurs. Ils vont me dire, tout le circuit olympique de ski, alors je pense plutôt à ceux qui font des figures, tu vois, des sauts, ils gagnent beaucoup moins d'argent que quand ils produisent leurs films, tu vois, et c'est assez marrant. Ils sont toujours athlètes, mais ils font plus de compétition, tu vois, et ils gagnent leur argent en faisant des films. pour les marques. Donc tu vois, je te dis, c'est on peut pas enfin il y a quand même aussi tu vois des sports où la performance où il faut que tu performes pour gagner ton argent et du coup ça devient un métier, tu vois. Là, c'est incontestable.
Alors, il faut que tu performes pour gagner de l'argent, peut-être, mais est-ce que tu as fait ça pour gagner de l'argent? Est-ce qu'à la base, t'as fait ça pour gagner de l'argent? Moi, j'étais atterrée la première fois, je sais pas quel âge j'avais, 20 ans ou 21 ans, je suis marraine d'une classe sport-études dans la Nièvre, et il y a une rencontre avec les élèves, et c'est la première fois, alors que j'en avais fait d'autres, les questions n'ont tourné qu'autour de l'argent. C'était à ce moment-là, ça commençait à même dans l'esprit des gamins, c'est combien tu gagnes? Est-ce que tu gagnes comme, je sais plus quel footballeur de l'époque, tu les regardes et... Tu l'as vu, ma voiture, c'est une Samba Talbot. Et aujourd'hui, bien sûr, qu'il va y avoir... Et puis, ça dépend des situations sociales aussi. Quand tu sais que tu peux réussir financièrement en réussissant sportivement, ça peut être l'objectif d'un sportif dans ce cas-là, mais je n'arrive pas à imaginer, c'est fou hein, je parle en athlète, je n'arrive pas à imaginer, mais parce que je fonctionnais tellement pas comme ça et que je j'ai du mal à inverser le truc, je vais te prendre un exemple. Je n'en ai pas pris tout à l'heure, mais je vais en prendre un. J'ai l'année où j'ai été championne d'Europe, donc l'année où tu es née, parce que j'ai battu record de France cette année-là et été championne d'Europe cette année-là aussi. J'étais justement en tête du Grand Prix d'athlétisme à égalité avec Merlène Otte, qui était the championne de 200 mètres et 100 mètres, qui était la star jamaïcaine du moment. Il fallait gagner toutes tes courses, enfin au moins 4 du Grand Prix ou je sais pas quoi. J'ai eu ces quatre courses du Grand Prix, mais parce qu'elles étaient dans mon programme, où la quatrième c'était la dernière. Mais j'en ai fait 3, on va dire, du World Meeting de Villeneuve-d'Ascq était un Grand Prix. Il y a eu du Grand Prix avant le championnat d'Europe. Je gagne les championnats d'Europe. 15 jours après, il y a la finale du Grand Prix à Athènes. Il suffit que je gagne le 100 mètres et en un temps bidon pour que je sois, que je gagne déjà le 100, donc je gagne la totalité. Le Grand Prix féminin. Entre les championnats d'Europe et cette course-là, il s'est passé 15 jours, mon entraîneur est parti en vacances parce que ça ne l'intéressait plus et je le comprends. C'était pas son, enfin, moi, il m'a amené, au championnat d'Europe. J'avais un plan d'entraînement. Je ne faisais pas l'intervalle entre les et une semaine après les championnats d'Europe. Tellement j'avais plus rien. J'avais tout laissé sur la piste, mon mental, mon envie, mon machin. Il y avait rien. Je suis arrivée au championnat dans cette finale du Grand Prix. J'ai eu toutes les peines du monde à m'échauffer. Je tirais. Enfin, quand je dis pas faire l'intervalle, c'est que ça roule pas. C'est tu tires comme une malade pour atteindre ta haie. Et quand il a dit à vos marques, il y a eu un faux départ. À l'époque, on pouvait en faire. Enfin, moi, j'en faisais jamais. Je partais tout le temps après. Quand il y a le premier faux départ, quand on se relève, je me dis, t'étais en train de regarder les cheveux de ta voisine. J'étais pas du tout dans la course. Donc, je me disais, alors après, je me suis dit, mais t'es invaincu cette année, Monique. Fais pas, allez, concentre-toi, bats-toi. Et après, j'ai même utilisé le, te rends compte, si tu gagnes, t'as 100 000 dollars. J'ai fait 4e de la course. Je m'en félicite pas, c'était pas ma motivation, l'argent.
Ouais, d'accord.
Ça, c'est sûr. Et ma motivation, je l'avais déposée à Split sur la piste le jour de la finale, et derrière, j'étais incapable de mettre un pied dans l'autre pour cette partie-là de ma saison. J'attendais mes vacances. J'ai dit, de toute façon, il y avait les Américains qui me disaient bad job today, et moi, je me disais, je suis en vacances. C'est honteux. Et je gagnais pas des 100 et des 1000. C'était pas que je crachais dans la soupe, hein. C'est que c'était pas ça qui me drivait.
Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis, ouais, je suis en vacances. Alors que, normalement, on dit en vacances quand on met une pause sur son métier, tu vois.
Je suis en repos. Et allez. Je non, suis... mais c'est quand je
non,
disais.
Non, mais je ouais.
T'as tu vu, me cherches.
J'adore chercher la petite bête. Mais,
ah,
mais
pour, mes,
pour mes parents, pour mes parents, c'était un enfer. Mais du coup, je suis quand même content, si j'ai bien compris, c'est que, le jour de ma naissance, t'as touché une grosse enveloppe.
Alors, le record de France, ouais, enfin, une grosse, je suis sûr qu'elle te ferait rigoler. J'imagine pas le prix, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et tu vois, je l'ai pas retenu. Ouais. Et pas parce que j'étais blasée. Mais je l'ai pas retenu, c'était pas ça. C'était j'ai battu recommandé pour te dire mon entraîneur dans cette période de la saison, il comprenait pas déjà. Moi le matin, j'avais mangé un pot de 750 grammes de Nutella.
Okay.
Genre mais vraiment. Donc
mais qu'est-ce que vous avez tous avec la bouffe?
Moi c'était une calamité.
Je te pose une dernière question sur l'argent. Après, j'ai envie de changer de sujet parce que on a bien parlé, mais merci beaucoup parce que c'est rare de pouvoir en parler à bâton rompu avec les athlètes. Il y a beaucoup de tabous. Moi, j'ai vu des athlètes sous mes yeux, pauvres, suivre leurs copains riches dans des boîtes de nuit, payer des bouteilles à 5000 euros et le lendemain pleurer parce qu'ils avaient plus un pognon juste parce qu'ils étaient incapables de dire, écoute, moi, gros, je peux pas payer ça. Et ça arrive, genre souvent.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Parce que... Mais donc merci beaucoup de parler un peu à bâton rompu de ça. Peut-être pour conclure, c'est est-ce que à la fin d'une carrière, quand même, j'ai pas pris le temps de dire ton palmarès, mais je vois vice-championne du monde en salle, je vois championne d'Europe une fois, et 3 podiums au championnat d'Europe en salle, dont 2 d'argent et 1 médaille de bronze. Donc, il y a peut-être pas les jeux, mais il y a un palmarès à l'international qui est indéniable. Sur l'espace de 2 ans, 3 ans, tu fais partie du top mondial. Est-ce qu'à la fin de ta carrière, tu peux t'acheter un appart?
Non. J'ai acheté à crédit, hein. Hein, bien d'accord, parce que
oui.
Mais j'ai acheté un.
Il y en a qui paye cash.
Hein?
Il y en a qui paye cash.
Ah bon, aujourd'hui, je pense que c'est possible. Oui.
Oui.
Mais j'ai acheté mon unique appartement avec mon mari de l'époque, le premier mari. Pardon. on a acheté un appartement à crédit ensemble quand est-ce que c'est 90 ou 91 mais voilà, on a acheté un appartement à Vitry-sur-Seine, des chambres de bonne et on a fait des travaux et machin, enfin c'était et je travaillais et il travaillait.
Donc c'est pour ça que t'as eu un crédit en fait.
Bah oui, sinon on l'aurait pas eu à l'époque. On l'aurait pas eu. On aurait été comme les intermittents du spectacle qui n'obtiennent pas de crédit parce que c'est pas stable. T'arrives avec j'ai un sponsor, j'ai un machin. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui peuvent y aller cash quand ils ont les fonds, puisque c'est ça dure qu'un temps cette histoire.
Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut acheter une voiture au moins. C'est dingue.
J'ai acheté à crédit ma voiture quand j'étais sportive. Après, il y a eu un moment où j'avais mon sponsor, c'était Alfa Romeo, donc du coup, j'avais pas besoin d'acheter une voiture. Mais autrement, ma voiture, elle a été achetée à crédit.
Ok, ouais, ok.
Mais on parle d'il y a 30 ans.
Ok. Mais alors du coup, les enveloppes d'après-course, ça partait dans les soirées ou quoi?
Mais tu crois que les enveloppes, elles étaient monstrueuses? Mais je bossais, non, mais je bossais rigole. À mi-temps.
Bien sûr.
Et puis...
Mais non, je sais, tu m'as dit que c'était pas élevé. Je te taquine, mais tu vois, c'est juste... Si tu peux même pas être... Bon, si, j'espère que mis bout à bout, tu peux quand même t'acheter une voiture. Mais ça... Je voulais juste montrer en tournant cette situation à la dérision et à l'humour, que oui, c'était pas, on peut pas du tout vivre de son sport. Non, tu pouvais pas du tout vivre de son sport à l'époque. C'est ça que je voulais.
Non, mettre. Vivre correctement de son sport, non, non, non. Il y a, voilà.
Ok. Est-ce que tu peux me raconter comment t'as vécu le jour de ma naissance?
Et ben donc, à 8h30 du matin, je me suis dit, il faut que je fête la naissance, j'ai cru comprendre l'enfant.
Que j'ai rencontré dans 33 ans.
Pousser son premier cri. Ah, ce qui est rigolo, c'est que le jour de ta naissance, donc la veille, j'avais voulu tenter. Alors, ma sœur était sauteuse en hauteur, et elle, avant les grosses compétitions, pour s'alléger, pour se donner un coup de boost et s'alléger, elle faisait ce qu'elle appelait le régime riz. Donc, elle mangeait du riz blanc toute la journée pour faire du stock de sucre lent et perdre du poids. Donc, j'avais décidé de faire un régime riz. Alors, moi, les deux fois où je l'ai tenté, je suis jamais allée au bout.
Okay.
Et je faisais riz cantonné. Acheté dans le resto d'à côté, bien gras et tout. Donc, je faisais régime cantonné. Donc, j'avais fait la veille. Matin, midi, soir du riz cantonné. Le soir, je crois que j'avais déjà dérogé au truc. L'objectif, c'était de perdre un kilo pour s'alléger. Moi, c'était plus, moi, je voulais tester. Mais moi, le lendemain matin, t'as fait régime riz la veille, et le lendemain matin, je me lève et j'ai envie de Nutella. Et donc, peut-être qu'à l'heure de ta naissance, je suis allée m'acheter ce 750 grammes. Je mangeais 750 grammes en un quart d'heure. À la grosse cuillère.
750 grammes.
C'est une pathologie, je crois.
Non, mais tu sais que moi, je mange une cuillère de Nutella maintenant. C'est peut-être lié, hein, mais je suis KO, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est de ma faute. En
fait. Non, mais j'ai eu ce truc, tu sais, effectivement, quand t'es jeune, tu manges énormément de sucre. Moi, j'avais mes parents qui avaient pas forcément toujours des très bons réflexes alimentaires avec moi. Je faisais entre 3 et 4 heures de tennis par jour. Donc, tu vois, l'ado, fallait le nourrir, quoi. Mais du coup, j'ai fait une overdose de sucre et je m'en suis rendu compte sur mes 24, 25 ans. Je mangeais deux cookies, tu vois, des cookies industriels ou des cookies que t'achètes chez le boulanger. J'en mangeais deux. Je dormais après. Pic d'insuline violent, quoi. Et retour violent. Donc, je me dis, waouh, je pense que 750 grammes de Nutella, je meurs.
Mais c'était fou.
Ou je rentre en hibernation, quoi. Donc, tu fais ça ce matin-là.
Ouais. Et puis, je le dis pas à mon entraîneur, parce qu'on avait un contrat. Enfin, contrat moral. On avait un pari. J'étais censée essayer de ne pas manger de Nutella pendant un mois. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais réussi. C'était une maladie. C'était.
Mais comment tu te sens sur la piste après?
C'est pas un souci. C'était pas un souci.
Mais tu te sens bien. Tu te sentais bien.
Ah oui. Ce jour-là, j'étais bien. Ouais. Ce jour-là, j'étais bien. Et puis, voilà, la course. Dans mes souvenirs, il y avait une roumaine que j'aimais pas du tout, c'est elle qui est en tête jusqu'à la dernière haie. Alors moi, j'étais une mauvaise partante. Il y avait un grand gabarit, il fallait déplier, j'étais pas puissante, mais j'étais par contre j'avais une accélération qui était assez forte et j'avais une technique j'étais une des moins rapides sur le sprint et des plus rapides sur les. Parce que techiquement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment forte. Ouais, c'était vachement beau ce que je faisais. Mais et mes adversaires le savaient. Et j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré les courses où t'es au mano à mano et les courses où je partais derrière parce que j'y pouvais rien. J'aurais bien voulu partir devant, mais j'y arrivais jamais. Mais à partir de la troisième haie, je savais que je gagnais en vitesse de et en et j'avais vraiment le sentiment de sentir Je bradote, mais je fais des répétitions, de sentir le moment où elle fait blesser psychologiquement. Et je l'ai poussé à la faute, en fait. Parce que t'as un pied, dans ton champ, tu vois un pied, après tu vois un pied amoulé, après tu vois un pied amoulé à genou, et tu sais que c'est moi qui arrive. et j'adorais ce moment où j'y allais, où je ne confondais surtout pas vitesse et précipitation, et où je maîtrisais parfaitement mon art et ma technique pour compenser ce que j'avais pas au départ, quoi.
Okay.
C'est un vrai bonheur, ça. J'adorais ça.
Okay.
Et là, dans cette course-là, la Roumaine, elle est devant jusqu'à la dernière haie. Et moi, sur 12 secondes et quelques, j'étais capable de me dire « Attends, attends, attends. » Enfin, ne panique pas. Ne fais pas la faute, toi, en fait. Parce que tu peux la faire toi-même, hein, la faute. Et j'adorais ça. C'était... Je peux pas dire autre chose que jouissif.
Ouais, mais je veux comprendre, ouais. T'es dans le flow, quoi, ce jour-là. Ça fait quand même une super belle pub pour Nutella.
Je suis désolée, parce qu'en plus, vraiment, c'est une calamité, cette marque, cette pâte, les conséquences, etc. Mais c'est ce que j'ai mangé pendant de très, très nombreuses années.
À l'époque, on savait pas aussi.
Non, voilà.
Je te défends.
T'es gentil.
Non, et franchement, tu m'aurais dit que tu m'as envoyé la vidéo et tout. Forcément, tu vois, on a un certain nombre de, on a un peu d'écart dans l'âge. Moi, je regardais, je me dis, mais waouh, cette superbe fille. Et là, tu me dis que tu mangeais 750 grammes de Nutella tous les matins.
Je casse les mythes.
Tous les matins, je fais waouh.
Okay. Non, pas tous les matins.
Oui, non, je sais. Mais il y a des matins où ça craquait, quoi. Enfin, il fallait.
Ouais.
Wow.
Non, puis c'était, j'avais mes trois sœurs, qui habitaient, pendant 2-3 ans, on s'est retrouvés, je sais pas comment ça se fait, puisqu'on est du sud, mais on s'est toutes retrouvées dans le Val-de-Marne à une période. Chez toutes mes sœurs, il y avait un pot Nutella au cas où je passais. Et où, si elles en avaient pour elles, il était entamé, mais le mien, il était plein. Parce que je pourrais être très frustrée s'il y avait une petite quantité dans un pot. J'y touchais pas dans ce cas-là.
Mais je peux comprendre. Je peux comprendre.
J'ai honte, mais tant pis, j'assume.
Ok. Donc ce 29 juin 1990, ton souvenir principal, effectivement, c'est de manger du Nutella. Est-ce que t'avais, je sais pas, des routines, des gris-gris, tu te souviens d'un truc que t'as dit ton entraîneur ce jour-là, il n'y a pas de téléphone, est-ce que tu appelles des gens à qui tu parles? Il y a des stars, je sais pas, les athlètes français que tu rencontres et tout.
Waouh, c'est tellement loin.
Je t'avais prévenu. Hein.
Ouais. Alors, moi, j'avais pas de... si on a tous des gris-gris, j'avais... De toute façon, c'est à l'époque, j'avais des bijoux, c'était mes incontournables qu'il fallait que je porte sur moi le jour de la compète. Tu vois, ça, c'est ton petit machin. Après, moi, j'étais relativement décontractée avant... Enfin, tout l'échauffement, etc. En plus, souvent, j'étais... Je suis en train de me demander s'il y avait Anne Picrot dans cette course-là, mais je pense ma grande amie, une de mes meilleures amies, c'était une athlète du 100 mètres haies avec qui je m'entraînais. Et donc, on était capable de se chambrer juste avant, de rigoler. Mais après, moi, quand je rentrais sur le stade... la vraie routine, mais c'était pas quelque chose qu'on m'avait appris, c'est que je rentrais vraiment dans un, j'avais une capacité dont je me rends compte aujourd'hui, enfin depuis quelques années, j'avais une capacité à faire le vide là où quelqu'un aurait fait de la sophro, aurait fait de la méditation, etc. J'étais capable d'être dans un stade qui hurle et de voir tout ralenti, d'avoir aucun son dans mes oreilles. J'avais une façon de respirer qui a toujours fait flipper les gens. Quand on est debout en attendant, quand ils présentaient la course, j'étais en hyperventilation. Je respirais très 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 rapidement et très fort. C'était quelque chose qui se déclenchait naturellement pour moi. C'était pas volontaire. Quand on regardait de l'extérieur, on pouvait avoir peur. On pouvait avoir l'impression que j'avais peur. Hein. Il y a une fille qui respire au milieu des autres. Il y en a une qui respire, mais on voit tout. son torse qui bouge à une vitesse folle.
J'ai pas fait attention sur les images que tu m'as envoyées.
Ça se voit sur celle des championnats d'Europe de Split, sur la vidéo que je t'ai envoyée. Il y en a une que je t'ai envoyée par mail et l'autre par lien. C'est le lien. Là, ça se voit. Je me mettais dans un état énergétique qui va rejoindre ce dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je me mettais dans un état énergétique absolument dingue. En fait, je me faisais monter en énergie, mais j'étais pas capable de savoir pourquoi je faisais ça. Mes entraîneurs m'ont toujours demandé, mais pourquoi tu fais ça? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Après, ça se déclenchait que sur les grosses courses. Que sur les grosses courses. S'il y avait un faux départ, c'était compliqué, parce que s'il y avait un faux départ ou deux, parce qu'à l'époque, on pouvait en faire, les huit pouvaient en faire un, et c'était que la deuxième fois que t'étais, donc ça pouvait durer trois plombes. Quand t'as fait cette hyperventilation et qu'il y a un ou deux faux départs, j'avais des fourmis, j'étais lactique, enfin, j'avais des sensations, mais des sensations que j'aimais.
Ouais.
Et moi, là aussi, c'est pas des tips, c'est des choses qui se sont faites naturellement. Je courais en apnée. Et c'était, apparemment bizarre. Pourtant, faire 13 secondes ou 12 secondes et quelques en apnée, ça me choque pas. Mais je courais en apnée. Je respirais pas. J'avais hyperventilé avant. Mais c'est quelque chose qui s'est fait complètement naturellement chez moi.
D'accord.
Mais autrement, je suis désolée, mais je me rappelle pas à qui j'ai pu parler.
Qu'est-ce que ce jour-là, peut-être tu te souviens qui est-ce qui t'a donné le prix? Est-ce que la médaille elle est jolie? Tu fais la fête après?
Sur le jour de ta naissance, hein. Le jour de ta naissance, c'est un meeting parmi d'autres, qui étaient à Lille. Donc non, j'ai dû rentrer le soir. J'étais très vexée parce que mon entraîneur a demandé à vérifier la vitesse du vent et la longueur de la piste. Parce que il ne comprenait pas que j'ai tapé un 12,56 à cette période de l'année. C'est, d'après lui, c'était un peu tôt. Donc non, mais voilà, il garde la tête froide et tout, mais j'étais vexée, quoi. Je disais, mais quand même, hein, j'ai aussi battu celle qui court ces temps-là, donc il n'y a pas eu de problème. C'était une vraie piste, la bonne longueur, tout ça.
Il croyait au vent, il pensait que le vent te poussait.
Ouais. Il pensait que, ah oui, parce que ça joue le vent quand même.
Ouais, bien sûr. Ah oui, bah, vent de feu, oui.
Mais non, en plus, c'était pas un jour très venté, donc c'était, après, c'était Pia, c'était un entraîneur qui était, qui allait pas sauter au plafond, surtout que l'objectif c'était pas de battre un record de France, c'était les championnats d'Europe. Donc dans sa logique, dans ce qui était prévu, c'était, mais c'est beaucoup trop tôt, quoi. Tôt, mais il est toujours là, ce 12,56, c'est complètement hallucinant.
Salut les extraterriens, je suis vraiment désolé puisqu'à ce moment-là, on a eu un problème technique. Et l'enregistrement a tout simplement coupé. Effectivement, il manque 10 minutes qui étaient vraiment passionnantes avec Monique, à qui j'ai posé deux questions. La première était de savoir comment est-ce que ça se faisait que son record n'avait pas été vaincu jusque-là. On a fait un petit peu d'humour en disant que c'était un vilain petit canard, mais Monique nous a répondu quand même que ce temps a été absolument exceptionnel, et nous sommes allés vérifier ensemble si elle avait réalisé ce temps en finale des Jeux Olympiques. Elle aurait terminé quatrième, et si elle avait fait ce temps durant la finale des championnats du monde qui ont lieu cet été, elle aurait terminé cinquième. Donc on peut dire effectivement que c'est un record quand même de très haut niveau. À noter aussi qu'il a été égalé quand même par une autre athlète, mais qu'il n'a pas été dépassé. Ensuite, je lui ai demandé un petit peu son avis sur les techniques de course de certaines athlètes. Elle a bien sûr répondu, mais comme beaucoup l'attendaient et moi aussi, je lui ai posé la question de notre chouchou du public sur le 110 mètres haies, Sacha Zoya. Tu confirmes du coup un engouement total sur Sacha Zoya, pour
alors,
ceux qui...
Tu confirmes un engouement total. Elle n'est pas claire, ta question, excuse-moi.
Oui, excuse-moi. non, mais on entend quelques spécialistes dire que à son âge, avoir une technique aussi bonne est quelque chose de très rare. C'est vrai que... Bah, en tout cas, il donne dans sa personnalité, dans sa façon d'être, dans sa façon de courir, beaucoup d'impression de légèreté, tu vois. Mmh. Il est très fin, un peu de voler. J'avais pas le même sentiment, tu vois, et je m'étais fait la réflexion, tu vois, en regardant un peu, en préparant un peu l'interview, en regardant la Jidou Kouré, tu vois, j'avais pas la même impression, tu vois, de légèreté ou, la Jidou, peut-être on sent un peu plus ce que tu dis, c'est-à-dire beaucoup de puissance, d'agressivité dans la course, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. J'ai passé une heure, et quelques, avant qu'on se rencontre, tu vois, à regarder un peu ça. Mais du coup, je me suis dit, et en plus, tu m'avais dit par téléphone que t'étais une puriste. du coup, j'aimerais avoir ton point de vue et que tu m'expliques.
Alors, Sacha, il est très, très, très rapide. Il a énormément de pieds, mais il est très rapide. Mais il a une belle technique. Mais par exemple, je suis plus fan de la technique de Willem Belossian.
D'accord.
Qui était avec lui au championnat du monde. Je suis plus fan de la technique de Willem. En plus, il fait partie de ceux qui partent encore en 8 appuis. Ils sont rares, ceux-là.
C'est quoi un 8 appuis?
Eh ben, en fait, donc sur 110 mètres haies ou sur 100 mètres haies, tu as un intervalle avant la première haie, c'est un intervalle d'une certaine distance qui avant se faisait en 8 appuis et tu arrivais ton pied d'appel c'était dans le starting block, c'était le pied d'appel que tu allais avoir devant la haie.
OK.
Et petit à petit,
c'est pas toujours le même pied d'appui.
C'est toujours le même pied d'appui sauf que maintenant depuis plusieurs années, face à la puissance qu'ont pris les athlètes, face aux pistes qui sont de plus en plus rapides, à cause, j'en sais rien, des pointes, des matériaux de pointe qui sont encore plus performants qu'avant, on se retrouve avec des athlètes qui sont trop près quand ils arrivent en 8 appuis, tu vois, ils partent, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et après, t'es toujours sur le même pied.
Donc, aujourd'hui. Foulée, c'est allongé, en fait.
Ils étaient en 8 appuis et maintenant ils sont passés en 7, c'est-à-dire qu'ils partent pas avec leurs jambes ils partent à l'encontre de ce qui se faisait avant et ils partent en 7 pour arriver sur le bon pied d'appel, mais ils partent en 7 appuis. Donc ils poussent, puisque la distance elle a pas changé, là où on mettait 8 appuis, ils en mettent 7. Mais derrière, on passe en 4 sur une fréquence qui est très très petite. Et moi, j'ai beaucoup de mal je ne comprends pas. Alors si, ils ont pris des gabarits, ils sont plus grands qu'avant, ils sont plus costauds qu'avant, les pistes vont plus vite, etc. Mais ils se retrouvent à pousser, à être en puissance avant la première haie parce qu'autrement, ils arriveront pas à rentrer leurs 7 appuis. Et derrière, il faut passer en hyper fréquence. Et c'est tout petit derrière. C'est tout petit, il se marche dessus. et donc il y a toute une technique de course à obtenir et il y a très peu d'hommes qui aujourd'hui partent en 8 appuis. Pourtant pour moi c'est la solution pour rester en fréquence derrière.
Ce que tu dis c'est qu'en fait leur fréquence de pas avant la première haie,
elle est pas dans le rythme de ce qu'il va y avoir après.
Ouais, OK. OK. Et sur le dernier sprint, tu remodifies ta fréquence de pas?
Sur le dernier sprint, tu fais tout ce que tu peux.
Tu lâches les chevaux. Tu penses à ton pot de Nutella.
Non, je rigole. Tu essaies de rester quand même devant. Quand dans je dis sprint. Devant, comme un trotteur. Enfin, parce que la tendance, ce serait de casser trop tôt. Et si tu casses trop tôt sur une course, tu te pètes les ischios. Donc, puis tu manges la piste aussi. Donc... Il y a encore un peu de technique derrière, mais on n'est plus dans le calcul, c'est tout ce que tu t'es mangé en sprint et en technique de sprint qui revient dans ce cas-là, quoi.
Ce que tu me dis, c'est que quand un sprinter, il met les épaules en avant sur la ligne d'arrivée, ça lui abîme les ischios, ça fragilise. Et tu peux te les casser en arrivant.
Sur un super cassé, oui, on peut se blesser. En fait, tu vois un cheval comment il trotte.
Ouais.
Théoriquement, plus tu vas chercher devant. Alors oui, là je fais des gestes que personne ne voit. Je fais le trotteur.
Vous avez pas l'imitation de Monix du cheval, mais ça c'est la vidéo, c'est enregistré, je le garde.
La course, ça se passe devant, ça se passe derrière aussi, mais ça se passe devant. Et on évite un cours. Le but d'une foulée, c'est qu'elle soit le plus rasante possible et que le chemin soit le plus court possible. Si ça c'est mon pied avant. Si mon pied avant il fait ça et qu'après il monte derrière jusqu'à la fesse et qu'il revient, c'est une perte de temps. Et quand on court en sprint, bien sûr qu'on pousse au sol derrière, mais on va chercher vachement devant. Quand t'es en train d'aller chercher vachement devant, que t'es à fond et que tu te penche à fond, la sanction c'est que ton bassin il bascule. Si tu perds un peu ta technique, ton bassin bascule vers l'arrière, ta jambe elle va beaucoup trop vers l'arrière et enfin t'as l'ischio qui chante, et puis surtout t'as la piste qui arrive sur ton nez très très vite, parce que enfin à ces vitesses là quand tu casses trop, j'en ai fait des arrivées sur les épaules, c'est moyen quoi, hein, mais quand il faut casser pour gagner ta place, tu fais ce que tu peux quoi, tu réfléchis pas et tu vois la piste arriver.
C'est vrai qu'on le voit plus, on le voit plus trop, mais tu vois sur des grosses compètes où il y a des arrivées où tout le monde se jette quoi sur la ligne. Mais ouais, c'est...
Il a dit, était un excellent...
finisher.
Ouais, il avait un cassé de folie, il a dit, de courir.
Ok.
Un cassé vraiment bas, parce que c'est pas évident. Une fois que tu t'es baissé comme ça à ces vitesses-là, tu sais, t'as vraiment vite fait d'être par terre, quoi.
Ouais, ok. Et lui aussi, il avait le cassé, c'était quoi aussi ses autres points forts?
Oh, c'était un super technicien, et puis et puis il avait vraiment envie. Ça revient, hein, j'y reviens toujours. Je crois qu'il avait vraiment envie.
Ouais. J'étais triste quand il est ces championnats du monde où il perd contre le chinois là. Tout le monde l'attendait, personne s'attendait à voir, enfin, tu vois, moi, en tout cas, qui suis pas un expert, tu t'attends pas à voir un Asiatique en finale du 110 mètres, ouais.
Tu parles des championnats du monde ou des jeux où il est tombé, alors qu'il était en tête?
Pour moi, il termine deuxième, mais à la loyale.
D'accord. Donc, c'est 2000. Je sais plus les dates. Mais c'est ça, le sport. C'est jamais écrit. C'est jamais écrit. Combien de médailles on va avoir, combien machin, etc. C'est jamais écrit. Moi, j'étais quelqu'un de, bon, en plus, j'étais timide. J'étais très réservée. Donc, à l'époque, je fuyais les journalistes 15 jours avant.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire à, tu sais qu'on va te dire, alors, vous visez la médaille? Et moi, à ce genre de questions, je pouvais que répondre. Enfin, j'aurais répondu par une, j'aurais dit non, moi je vise, c'est pas la lune. Mais le problème, c'est que quand on veut absolument te faire dire, moi, j'ai toujours une devise qui est bien faire et laisser braire. T'es pas obligé de l'annoncer. Et souvent on essaie de te faire dire ce que tu vas faire, mais laisse-moi le faire quoi. C'est la pression que tu ne veux pas, que tu essaies de ne pas te mettre toi, on te la met de l'extérieur quoi. Et ça, il y a pas grand chose qui te prépare à ça. Donc moi je m'en sortais en essayant de pas répondre, et à l'époque, j'avais des messages sur mon répondeur de la maison. C'est le machin où t'appuyais sur une grosse touche. Eh ben, je répondais pas.
Oui.
Et j'étais pas bien vue, mais moi, c'était ma protection, c'était de pas répondre aux interviews avant compétition.
C'est marrant que t'en parles. Enfin, ça tombe bien, en tout cas. Ce que je... J'ai eu un grand débat justement ce week-end. On parlait de l'UTMB sur la championne Courtney de Walter, qui en fait dans le post Instagram qu'elle a fait avant la course, quelques semaines avant en fait, quand elle a annoncé qu'elle était inscrite, parce que je sais pas si tu sais, mais elle est complètement légendaire cette femme, parce qu'elle a fait un premier 100 miles au mois de juin qu'elle a gagné. Je sais plus si c'est la Western State. Mais en gros, si tu veux, en l'espace de 2 mois, elle a gagné les 3 plus grands 100 miles, les plus mythiques au monde, tu vois. Dont le dernier, qui est l'UTMB. Et en fait, elle annonce pas longtemps avant qu'elle participe, parce qu'elle attend, elle voit un peu comment elle se sent, tu vois. Il y a peut-être une histoire de sous, il y a peut-être ce genre de choses. Quand on voit l'adoration qui lui est faite, on peut se dire qu'il y a peut-être, que la course a bien fait. Si la course l'a payé pour qu'elle vienne, la course a très bien fait. Mais en fait, son post avant course a fait beaucoup jaser parce que elle dit, je suis juste content de revenir à Chamonix, j'y viens juste pour prendre du plaisir. Et il y a plein de gens qui disent, mais c'est hyper hypocrite parce qu'elle vient de gagner en l'espace de 2 mois les 2 courses les plus mythiques. Là, elle va rentrer dans l'histoire si elle gagne la 3e et c'est quasiment sûr qu'elle va gagner. C'est hypocrite de dire que c'est pas ça son objectif. Et je me suis un peu chamaillé avec ces gens-là parce que ces gens-là ont complètement oublié que pour performer du mieux possible, il faut se détacher du résultat. On le fait comme on peut. Soit on répond pas à son téléphone, soit on ment complètement comme pourrait le faire Courtenay, c'est-à-dire faire un petit post qui dit qu'elle est que là pour le plaisir. C'est pas forcément mentir d'ailleurs. C'est même, je pense qu'elle est intimement convaincue de ce qu'elle dit. Mais c'est simplement de se dire, je donne le meilleur de moi-même et j'y vais. Et je trouve les athlètes osent pas souvent dire ça. J'y vais, je donne le meilleur de moi-même. Je serai heureux si je suis à 100%. Peu importe le résultat, en fait. Parce qu'on s'identifie beaucoup à travers le résultat. Ce jour-là, si Courtenay, elle fait la même course et qu'il y a une fille qui est là-bas, la fille qui est là-bas, elle est exceptionnelle, extraordinaire, tu vois. Mais Courtenay aura quand même donné le meilleur. Et c'est toujours la même femme, quel que soit le résultat.
Mais ça, ouais, je suis tout à fait d'accord parce que ça me parle très très fort parce qu'on m'avait posé comme question. Alors évidemment, je me rappelle pas de quelle compétition il s'agissait, mais on m'avait demandé en gros si je préférais battre un record ou faire une course qui m'éclate. Et vraiment à l'époque, et j'ai pas changé depuis, c'était si je suis deuxième et que j'ai fait la course de ma vie, techniquement, etc., etc., je préférais celle-là, celle où je me suis éclatée, où j'ai tout maîtrisé, où j'ai fait le maximum, même si sur 12 secondes ça paraît fou de dire qu'on peut pas faire tout ça. Si on peut faire plein de choses pendant 12 secondes. quand t'as donné tout ce que tu le quand t'as donné le meilleur de toi, je voulais essayer de trouver une autre formulation mais je te répète, tant pis. Quand t'as donné le meilleur de toi, eh ben, si t'as quelqu'un qui est devant, eh ben, il était plus fort, point, barre.
Ouais.
Après, tu tires les enseignements, comment je peux être encore plus forte, etc. Mais sur l'instant, tu peux pas, y a pas à s'en vouloir si t'as fait,
Ouais. Je suis d'accord. Mais, et ça, c'est un truc, tu vois, jeune, j'aurais bien aimé le savoir. Alors, jeune, j'ai fait du tennis. Ça reste un sport d'affrontement. Ton but, c'est pas forcément de bien jouer, ton but, c'est de battre l'autre. Mais, quand tu cours, peut-être que ta première performance, ça doit être d'essayer de courir le plus vite possible toi, sans forcément chercher à regarder les autres, même si les autres impactent un peu. Je voulais te demander d'ailleurs, c'est quoi l'ambiance dans une chambre d'appel avec des femmes? Parce que j'en ai parlé avec Pascal Martineau Lagarde, j'en ai parlé avec Jimmy Vico. J'aimerais bien avoir l'avis de Ladji d'ailleurs sur le sujet aussi. Sacha, ça pourrait être intéressant. J'aimerais beaucoup demander à Marie-Jo. D'ailleurs, Sébastien, si tu m'entends, tu sais que il y a un mail qui est sans réponse. Non mais ça serait coupé ça.
Tu parles de Sébastien Foucras?
Bien sûr. Bien sûr. On se connaît un petit peu. Il est venu sur le podcast et puis on a eu l'occasion de redéjeuner ensemble. Je l'apprécie énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait avec les Étoiles du Sport. Mais tu vois, c'est des questions que j'aimerais beaucoup poser. Quelle est l'ambiance? Enfin, je l'ai déjà posée. J'aimerais bien avoir ta réponse à toi. Quelle est, notamment parce que t'es la première, on peut te catégoriser de sprinteuse. Quelle est l'ambiance qu'il y a dans une chambre d'appel? de sprinteuse?
Alors j'ai envie de rire parce que chaque fois que tu me parles au présent, je me dis mais qu'est-ce que je réponds? C'était à 30 ans. C'est marrant que tu parles au présent parce que moi c'est vraiment pas mon présent. Donc encore une fois, je rappelle que c'est l'ambiance que moi j'ai vécue il y a 30 ans. Ah ben c'était très silencieux, t'en as beaucoup qui sont très très à l'intérieur.
Poker face.
Ouais, voilà. À l'époque, c'était aussi l'époque, c'est plus du tout le cas, c'était l'époque des armoires à glace bulgares et russes qui déjà étaient pas franchement aimables dans les couloirs de l'hôtel, mais alors avant une course, t'avais juste pas envie de les regarder parce que elles étaient assez terrifiantes. Moi, j'aimais bien quand il y avait les finales où il y avait une autre française, j'aimais bien parce que j'étais capable de discuter un petit peu et d'échanger. Il y avait la musique, t'avais ton Walkman.
Cassette.
Non, ça c'est au début, j'exagère. Non, c'était le
gros CD,
le disque, le Discman.
J'en ai eu aussi. Hein.
Donc t'avais ton Discman, on te l'enlevait qu'au dernier moment, je crois, ou. Oui, tu l'avais un moment. Et puis après, des souvenirs, c'est pas de l'intox. C'est rigolo que tu poses cette question parce que tout d'un coup, je me dis, mais en fait, j'ai jamais vu une chambre d'appel de mec. Et la chambre d'appel de avant le 100 mètres, ça doit être quelque chose, quoi. Dans le genre coq.
Mais c'est pour ça que je te pose la question.
Donc non, c'était pas coq, c'était pas. Alors à l'époque, il y avait souvent, hein, deux ou trois représentantes des mêmes pays. Donc du coup, t'es quand même un petit groupe. C'est un moment, c'est presque du recueillement, ce truc-là, cet endroit-là. C'est un moment feutré, silencieux, et puis c'est vraiment, moi j'adorais quand on passait sur la piste, ce moment où, ça y est, là t'es, on lâche les chiens, j'allais dire, c'est pas joli, mais voilà, c'était pas de l'intox chez les filles, en tout cas.
À quel point, je me souviens d'une interview après les championnats du monde de Sirena. De Sirena. Qui était du coup sprinteuse sur les derniers championnats du monde. Et en fait, elle disait que elle s'était un peu laissée entraîner par le rythme des autres. Et je me demandais à quel point en fait les autres pouvaient avoir de l'enfin te perturber toi.
Alors à la chambre d'appel ou en
sur
course,
toute la
ou...
course, sur ah. tout le... je veux dire entre la chambre d'appel et la ligne d'arrivée quoi, tu vois.
Ben c'est toute une enfin c'est justement c'est il y a vraiment une vraie concentration, c'est très intérieur. Donc moi je te dis à l'époque je n'entendais pas, je ne voyais quasiment pas, je ne voyais que des et. Non mais c'est vrai, j'ai des souvenirs à l'époque parce que maintenant je pense plus, elles sont au-dessus les caméras où il y a encore le caméraman qui fait couloir après couloir.
Je pense pas
que c'est comme ça. À l'époque, c'était le caméraman avec sa caméra et le gars derrière qui tient les fils qui vient dans ton couloir et qui passe qui fait ses 10 secondes ou 15 secondes devant chacune pendant qu'à l'antenne on te présente, tu vois. Donc t'as un mec à la place de ton couloir de haie qui est en face de toi. Je ne le voyais pas. Je voyais des, il était transparent. Mais ça fait partie de ces choses qui aujourd'hui encore sont c'est des choses que j'enseigne dans des accompagnements que je fais, c'est d'entrer en soi, c'est de se concentrer, c'est de faire le vide. En course, je l'ai raconté tout à l'heure, en course, c'était oui, tu peux être influencé, mais ça se passe à un tellement tout petit domaine, ce truc. Tu parlais de tennis. dans un match de tennis, je me suis souvent amusée à, j'ai l'impression de voir et de sentir le moment où ça bascule au niveau psychologique chez l'un ou chez l'autre. Tu les vois, là, ces trucs là où tout va bien, et puis tout d'un coup, il y en a un qui marque, alors je vais te parler en termes super tennis, mais t'en as un qui va faire des points, et puis tu sens qu'il y a, fou, ça part. Et là, c'est sur tout un match. Et ben, sur 12 secondes, c'est pareil. C'est pareil. Il y a, j'aurais pu, et ça m'est arrivé, de partir derrière, comme je partais tout, enfin, comme j'étais une faible partante, tu pars derrière, tu fais confiance à ce que tu sais faire, tu déroules tout ce que tu sais faire, ça fonctionne, tu te crispes. On parle de lâcher prise, c'est ça. Je fais des parallèles avec le sport parce que dès lors que tu te crispes, eh ben c'est mort. Donc oui, si dès que t'as fait ton un ou deux premiers appuis, il y a la petite voix qui est capable de dire putain, je suis mal parti, bah t'es déjà plus dans ta course, c'est mort, c'est fini. Sur un 100 mètres haut, c'est fini. Il y a rien. Il doit y avoir juste ce que tu sais faire. Et pourquoi tu le fais? Ça aussi, c'est important.
Ok.
Mais après, j'ai souvenir d'une américaine qui était absolument insupportable. Mackenzie, j'en ai pas oublié son nom. Elle a une choucroute. Elle, c'était une fille qui, à vos marques, enfin, pendant la présentation, elle insultait en anglais, à vos hôtes. Et puis alors, vous allez voir mes pointes, ouais, machin, puis je te passe les trucs. La première fois où elle t'a perturbé, où t'es rentré dans les blocs en te disant putain, pardon. Enfin, quand tu te mets dans les blocs et t'es en train de pester contre elle, elle a réussi. Elle a réussi ce qu'elle voulait faire. Quand t'as à tes marques, t'es en train de dire mais me casse les pieds celle-là. Ben ça y est, t'es hors de ta course. Donc c'est à l'époque on était venu me voir en me demandant si c'était les débuts de la sophro, il y avait une revue de sophrologie qui était venue me voir et qui m'avait dit ce que vous avez besoin de sophro, etc. Alors moi, j'ai du haut de ma facilité personnelle à me concentrer, j'avais dit si on a besoin d'un sophrologue pour faire du sport de haut niveau, c'est qu'on n'est pas fait pour le sport de haut niveau. C'était un petit peu exagéré, mon truc, quand même. Mais c'est surtout que si tu remplaces la peur de mal faire par l'envie de réussir, tu changes la donne, quoi.
Ouais.
Et c'est juste ce changement de langage, c'est une autre langue. J'ai peur de me planter. Non, j'ai pas peur de me planter. Je m'entraîne depuis 3 ans, machin. J'ai juste envie de m'éclater, de réussir. Et de se rebasculer, parce que la peur, elle vient te chercher. Ou l'adrénaline, pas au sens hormone, mais le petit machin qui va te faire, si j'avais pas d'adrénaline, j'avais le sentiment que j'étais pas consciente, enfin, que c'était un jour où j'allais ramasser les pommes, quoi. Il y avait besoin de ce petit truc, mais ce petit truc qui te galvanise, pas ce petit truc qui te tétanise. T'as vu, je fais des rimes. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'était une super école de pourquoi je fais ça. Si tu te rappelles au moment où t'as la trouille, à chaque fois que t'as la trouille, si tu te rappelles de pourquoi tu fais ça, quels que soient les pourquoi, et là je vais dire, est-ce que c'est pour gagner de l'argent, est-ce que c'est parce que c'est un métier, est-ce que c'est parce que c'est un vrai plaisir, est-ce que c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire comme mon père ou comme je sais pas quel champion ou j'en sais rien, mais si tu te ramènes à ton pourquoi, ben il y a pas de raison d'aller se mettre des bâtons dans les roues tout seul, parce que c'est souvent pas oui, t'es battu par plus fort que toi, mais il y a plein de fois t'es battu à cause de toi.
Ouais.
Alors que ça fait 3 ans, 4 ans que tu t'entraînes comme un taré pour aller te faire un croche-patte tout seul.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je suis invitée par extraterrien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui?
C'est pas un métier, ça.
aujourd'hui, je suis énergéticienne et coach holistique au sens, alors holistique, attention, souvent on pense mystique. Je travaille sur l'entièreté d'une personne, son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental, et j'en ai oublié un, mais
spirituel, je sais
ouais
pas.
Voilà, éventuellement, pas forcément, c'est pas une obligation.
D'accord.
C'est tellement personnel, spirituel. Mais voilà, je dis aujourd'hui coach holistique parce que c'est vraiment ça. Alors je sais que ça, c'est dans la tête des gens, ça fait tout de suite très barré. Pour ne pas utiliser développement coach en développement personnel, parce que aujourd'hui le développement personnel, je trouve que ce sont des injonctions personnelles. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être la meilleure version de toi-même. Il faut faire ci, il faut faire telle routine matinale, tel machin. Non, encore une fois, c'est chacun à ses propres besoins, et encore faut-il qu'il soit capable de les connaître et de les sentir, ses besoins. C'est presque la première chose à faire, quoi. Il y a des gens à qui tu demandes de quoi tu as envie aujourd'hui, de quoi tu as besoin, ça va les faire pleurer. Parce que c'est pas une question qu'on pose. C'est pas une question qu'on pose et c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre. Donc moi j'accompagne des femmes et des hommes qui ont des blocages, qu'ils soient physiques, perso, à des moments de leur vie. J'accompagne des dirigeants, j'accompagne des sportifs et à mieux être, avec une majuscule à être plutôt qu'à mieux faire.
On est des êtres humains, pas des fers humains, c'est ça.
C'est ça. Je sais pas qui l'a dit, mais c'est très bien.
Beaucoup, c'est souvent repris.
Non, pour moi, on apprend à faire depuis qu'on est tout petit. On apprend à écrire, à lire, à aller à l'école. On apprend à faire des choses, mais on n'apprend pas à être. Et c'est quand même hyper important. Et on s'en rend compte parfois à 30, 40 ans, à des moments de vie où tout d'un coup, au détour de soit un échec dans un objectif qu'on avait ou un échec amoureux dans son couple, etc. Il y a des choses qui tombent et moi qui je suis là dedans, je sais pas trop. Je me régale dans ce que je fais.
Ok. Comment t'es tombée dedans?
Je suis tombée dedans, dans la marmite. alors, je savais que j'avais des... On m'avait souvent dit que j'avais des qualités énergétiques. Quand je massais les copains en équipe de France, t'as bien entendu les copains, c'était pas les copines, non, je rigole. On se massait entre nous de temps en temps. Il y avait les kinés déjà, mais on se massait. J'avais pas besoin qu'on me dise où était la contracture. J'avais même pas besoin de la chercher. En général, le premier truc que je touchais, c'était la zone qui posait problème. J'ai souvent détecté sans faire exprès aussi les grossesses, hein, les grossesses de femmes qui ne le savaient pas. J'ai dit, tu penses un peu? J'en vexais quelques-unes, j'ai grossi. Non, mais alors tu le vois où? Je sais pas, t'as une tête de femme enceinte. C'est quoi? C'est ta tête. Et à l'époque, c'était leur énergie que je ressentais. Et c'est mon avis. Et bon, en tout cas, on me l'a dit à plusieurs reprises en me disant, oh là là, t'as une énergie, tu dois avoir des dons en magnétisme, etc. C'était le dernier de mes soucis. J'avais de l'athlé, j'avais un métier, j'avais un mari, j'avais des enfants. Enfin bref, il y a eu plein de stades de ma vie où c'était pas le moment. Et puis, un jour, à une période, je l'ai trouvé sur moi, en fait. C'est que d'abord, au niveau, j'avais un problème d'épaule qui me faisait très 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 mal et ça se réveillait tous les soirs, la rage dentaire mais dans l'épaule, et tous les soirs je me disais demain j'allais voir quelqu'un, et puis dans la journée j'oubliais. Et un soir où ça c'était insupportable, j'ai fait des ce qu'on appelle des passes avec la main, mais je savais même pas ce que je faisais et je me suis laissé faire. Et ce n'est que le lendemain je me suis rendu compte que je n'avais plus mal. Et le lendemain, le surlendemain, j'étais chez une copine qui a eu une crise de migraine ophtalmique et je dis attends, je crois que j'ai un truc. Et donc j'ai commencé à lui faire des en ayant des sensations, je savais même pas comment identifier, j'attendais, je faisais, et au bout d'un moment, ça lui a fait passer, et puis j'ai pratiqué comme ça, un peu n'importe comment pendant, je dirais un an, mais juste mes amis, ma famille, etc., mais j'étais capable de faire ça pendant l'apéro, quelqu'un qui a mal à la tête, machin, et je me suis pas rendu compte tout de suite que j'attrapais tout, que moi, je repartais avec une douleur à la tête ou au dos ou machin. Et il y a eu, c'est arrivé jusqu'à un moment où j'ai été complètement en vrac, mais complètement, complètement, avec des vertiges, avec... Et donc là, je suis allée voir l'éthiopathe qui me suivait du temps du sport. Donc, elle m'avait pas vu depuis plus de 20 ans.
C'est quoi une éthiopathe?
C'est, on va dire que ça se rapproche de l'ostéopathie, mais ça travaille plus à, enfin, il travaille différemment, un peu moins en force. C'est ma traduction. Hein, je ne suis pas éthiopathe. Un peu moins en force et on va chercher beaucoup plus, encore plus loin la cause. Enfin, t'as un truc là, ça peut venir de la cheville, etc. C'est celle que j'avais rencontrée sur les deux ou trois dernières années de ma carrière. Elle a été surprise de me voir arriver. Je lui ai pas dit que je faisais du magnétisme. Et en fait, elle m'a regardé de la tête aux pieds. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais tu soignes en magnétisme. Donc, elle avait aussi des capacités. Elle m'a dit, faut que t'arrêtes. T'es en train de te flinguer. Il faut que tu fasses une formation. Donc, j'ai arrêté pendant un an et demi. Parce que j'arrivais pas à trouver la formation qui me corresponde. J'avais envie de quelque chose de, carré. J'avais pas envie de devoir rentrer avec une couronne de fleurs en chantant Hare Krishna dans l'eau pour pouvoir faire du magnétisme, pour résumer. Je voulais pas de folklore, je voulais pas de... Pour moi, c'est... Tout le monde peut pratiquer l'énergie, tout le monde ressent l'énergie d'un endroit quand on se sent bien quelque part ou quand on se sent mal, quand on dit bonjour à quelqu'un et qu'on n'a pas envie. C'est sa tête, c'est pas sa tête qui nous revient pas, c'est ce qui dégage. Quand on a mal à la tête, quand on a mal aux dents, notre réflexe c'est de se toucher le front, c'est de se tenir. Quand un bébé a mal au ventre, c'est de le toucher. Donc on a des restes et des gestes qui sont des gestes d'auto d'apaisement de l'autre ou d'auto apaisement soi-même. Il y a pas besoin d'en faire tout un comment dire. Enfin, pour moi, il n'y a pas besoin d'y associer des simagrées, du folklore, etc. Moi, je le vis très simplement. Et les soins énergétiques m'ont amené petit à petit, puisque mon but, quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal quelque part et qu'il a une souffrance, mon but, c'est qu'il ne revienne pas.
Ça devrait être le but de tout thérapeute, non?
Oui, mais oui. Voilà. Donc mon but c'est qu'ils ne reviennent pas et les choses ont fait que finalement souvent on va chercher la cause de tout ça et petit à petit ça s'est fait tout seul. C'est mes clients qui m'ont amené plus ou moins vers l'accompagnement et c'est ce que j'adore aujourd'hui, c'est travailler avec des gens, que ce soit en groupe puisque j'ai un accompagnement de groupe qui est en ligne mais avec des visios qui s'appelle le passage de mots. Il est basé sur un 100 mètres V.
Ok.
C'est un accompagnement de vie qui est basé sur ce que je faisais avant, pendant et après un 100 mètres V. J'en ai donné des bribes là, mais voilà, ça c'est le passage de mots. Après j'ai de l'accompagnement individuel, j'ai de la formation aussi, mais j'ai toujours, une fois que j'ai eu fini ma carrière. Même si déjà dans ma vie de tous les jours, j'étais quelqu'un qui accompagnait les autres. C'est mon tempérament de repérer ce qui va pas, de comprendre ce qui va pas, de porter. Enfin, pas porter, non. Ah, grosse bêtise. Ça, c'est mon tempérament, c'est de porter. Et de prendre. Je suis en pâte plus. C'est pour ça que je prends la douleur. Donc et c'est interdit dans mon métier de prendre la douleur, sinon je vais pas finir travailler. Mais bref, c'est mon truc à moi d'aider à rallumer la lumière quand elle s'est éteinte. Et y en a besoin de lumière.
Chez les athlètes, ça se traduit comment, souvent?
La lumière éteinte?
Ouais. Pourquoi elle s'éteint, d'ailleurs?
Ben, prendre du plaisir, j'ai l'impression que c'est pas, que ça se perd. Enfin, ça se perd. C'est pas quelque chose, c'est pareil, c'est la joie. Ben là, tu parlais d'enfant intérieur tout à l'heure. La vie qu'on traverse, elle lui met des petites tapes à l'enfant là. Et surtout, en plus, quand t'es enfant, on te dit, enfin, il faut grandir, arrête de pleurer, mais tu es grand, etc., etc. Par contre, la fraîcheur, pas de filtre, la sensibilité de l'enfance, c'est pas quelque chose qu'on aujourd'hui on s'est classé dans les hyper, c'est presque classé comme une pathologie. Pour moi, c'est l'essence même de l'être humain, la sensibilité, la sensitivité, les deux ensemble. Et il y a plein d'interdits, il y a la vie de ce monde qui nous met dans des espèces de rails, dans des espèces de hier, de comme si on avait des œillères. S'il y a pas quelqu'un qui nous a éduqué, ou si on n'a pas été éduqué comme ça, ou si à un moment donné il y a pas quelqu'un qui nous dit lève la tête, respire, regarde, tout ce que tu as déjà. C'est extraordinaire. Il y a parfois besoin d'aide pour faire ça. Quand on est dans un monde où on cavale et où si tu allumes un écran, moi je regarde plus la télévision à part pour regarder une compétition d'athlétisme, je ne regarde pas la télévision. Ça c'est pas pour autant que je suis pas au courant de l'actualité, mais je veux pas qu'on me la serve au biberon. Je veux pas qu'on me serve du négatif. Et je suis, oui, on pourrait penser que je suis une bisounours et que oui, alors il faut parler positif, machin. Non, je suis pas là-dedans non plus. Mais par contre, avoir la capacité chaque jour de se dire simplement, eh oh, t'as vu ce matin, j'inspire. Rien que ça. C'est une chance.
Qu'est-ce que tu fais toi? Sur toi, de tout ce que t'as appris.
Qu'est-ce que je fais moi sur moi? Alors j'ai beaucoup de, j'essaie d'être bienveillante avec moi. Alors j'étais une bourrine. Je suis une bourrine de tempérament. Je suis une bourrine en pâte. Donc c'est bizarre comme truc, mais quand je dis que j'étais une bourrine, c'est que j'ai quand même fait du sport, même si je m'entraînais en qualité plus qu'en quantité, je donnais tout sur la piste, j'étais capable de, il y avait des séances, c'est pas parce qu'on s'entraînait peu qu'il y avait pas des séances où t'as des couteaux dans les jambes et où tu vomis entre deux 400 mètres, hein. J'ai pas ramassé des pâquerettes pendant toutes mes entraînements. Donc il y a un côté, et puis je suis pas fragile d'allure. j'ai pas l'air d'être une faible femme donc j'ai une tendance à être bourrine. J'ai tendance à porter des trucs, on m'appelle toujours pour les déménagements, etc. Donc depuis quelques années, c'est pas des blagues.
Mais tu vois, là il y a des travaux à faire, faut que je monte des meubles, faut qu'on ajoute la déco et tout.
Non, mais je prends soin de moi maintenant, tu peux pas. J'ai un peu 56 ans, donc il y a aussi la vie qui m'a rappelé 2-3 fois. Mais aujourd'hui j'écoute mes besoins. C'est la première, après mon café du matin, parce que ça c'est un incontournable. Avant de commencer quoi que ce soit, je fais un petit tour chez moi, en moi. Ça peut me prendre 5 minutes, comme ça peut me prendre un quart d'heure. Tu te sens comment? Ça tire de quel côté? Ça fait mal comment? Et tu te sens, et t'as besoin de quoi ce matin? T'as envie de, et ça c'est ce qui va déterminer si je vais aller marcher, si je vais aller, si je vais me faire 3 étirements et 4 bricoles, si je vais bouquiner, si je vais écouter de la musique, si je vais danser comme une folle dans mon salon, ou si je vais aller me recoucher. J'ai 2 heures. C'est rare que j'aille me recoucher. J'ai 2 heures pour moi le matin. C'est mon incontournable.
Tu te lèves tôt?
Ah bah oui, du coup forcément. Enfin, je suis une puto 6h, 6h30, parce qu'après après moi je suis à mon bureau et enfin à 8h30, 9h, je suis en mode je travaille hein, ou je me forme, parce que je me forme aussi encore souvent sur des petites choses. Mais j'ai 2 heures pour moi d'entrée de jeu, parce que je sais que sinon si je les ai prévues à 18h, et ben si, selon la journée, si ça a débordé, si j'ai eu un rendez-vous supplémentaire, etc., c'est moi qui vais sauter. Donc
je connais bien ça.
Donc je me pose d'entrée de jeu.
Je suis en train de me faire sauter là d'ailleurs.
Mince, on est long.
On déborde, ouais, 2 heures. Bientôt. C'était très bien. Moi, je regrette pas.
Donc voilà.
J'ai fait ma petite séance de méditation ce matin. Donc...
Voilà, je peux respirer, méditer. Alors moi, je fais beaucoup de visualisation. Je visualise mes journées. Je visualise. Je visite des moments de ma vie qui étaient des moments de joie. D'ailleurs, il peut y avoir un split, un championnat d'Europe, mais il y a plein d'autres choses. Je revisite des moments de vie, je me mets en... Ben, je me fais un shoot de dopamine au réveil, quoi.
Okay. En pensant à ce que tu veux, à des souvenirs.
Ah oui? Ouais, j'ai une liste, parce que sinon, je vais réfléchir 3 heures au moment où j'ai envie de le faire, ça. Je le fais pas systématiquement, mais au moment où j'ai envie de le faire, je prends ma liste et je revisite tel truc, mais ça peut être aussi, le garage de mon grand-père où on faisait du théâtre avec mes sœurs et je vais y rester pendant 5-10 minutes, mais ça va maintenant aujourd'hui, je vois tout, je revois les objets, les outils, mais je sens l'odeur du cuir de sa veste, c'est un truc de fou, c'est et au niveau émotionnel, je peux finir avec un sourire jusqu'aux oreilles, voire des larmes de joie. Parce que j'ai replongé dans l'intégralité de la scène, quoi. Et ça me... Alors, il y a des périodes où je le fais pas, hein, puis il y en a d'autres où je le fais, et puis, c'est vraiment selon mes besoins. Et puis après, moi, je mange plutôt une fois par jour.
D'accord. Ok. Jeûne. Intermittent.
Ouais. Mais, ouais, parce que ça me convient.
Ouais.
Ça s'est fait progressivement, le petit déjeuner a sauté alors que c'était un incontournable pour moi, le petit déjeuner. Il a sauté. Et puis, après, consciemment, j'ai voulu faire sauter le repas du soir puisque naturellement, je mangeais peu le soir. Je me suis dit, tiens, on va voir. Et ben, pour la mamie que je suis, la triplement mamie.
Félicitations.
Merci. Quand je suis vraiment totalement en période où je fais pas d'écart, les douleurs articulaires, on n'a pas, quoi. Vraiment.
On peut parler légèrement troubles alimentaires, parce que ça, quand même, ça m'interpelle. Le pot de Nutella et aujourd'hui le jeûne. C'est un truc que j'ai du mal à aborder avec les athlètes, parce que je sens que c'est un truc sensible. Tu dois peut-être en voir d'ailleurs. Mais notamment en athlée, tu vois, et notamment en course à pied, alors peut-être un peu plus sur les distances un peu plus longues, je sais pas trop ce qu'il en est sur le sprint et les haies, mais il y a quand même un certain culte à la maigreur.
Oui, dans certaines disciplines. Le trouble alimentaire...
Est-ce qu'on peut dire que manger un pot de Nutella en 15 minutes, c'est un peu avoir un trouble alimentaire?
Ah, c'est sans doute, mais ce qui est fou, c'est que je ne le faisais pas avec autre chose. C'est-à-dire que j'allais pas me jeter sur je ne sais quoi et le manger à cette vitesse-là. Quand je parle, enfin, j'étais capable d'avaler, d'en avoir tellement sur ma cuillère que ça passait pas. Je sais pas combien de fois je me suis dit, ça fait mal parce que ça veut pas descendre. T'as la petite voix qui dit, mourir étouffé par Nutella, mais c'est vraiment trop bête. Alors moi, je l'ai jamais pris comme un trouble alimentaire.
Je suis pas médecin, tu vois.
Oui, je sais pas
du tout comment est-ce que ce serait bien défini et tout, mais... Il y a un comportement un peu compulsif, en tout cas.
Compulsif sur le Nutella.
Ouais. Il y a, si ça revient souvent, c'est un petit peu un sentiment d'addiction. Mais en tout cas, non, mais je voulais juste te dire, enfin, ma vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de ta situation jeune, avec ton rapport à l'alimentation à l'époque, à maintenant, est-ce que tu jeûnes et tu te sens bien?
Alors, je jeûne et je me sens bien, mais comme d'habitude dans ma vie, je peux aussi manger au restaurant midi et soir et hésiter entre le foie gras, le magret et prendre les deux.
Oui.
Donc,
tu jeûnes parce que tu sais que c'est ça aussi qui te soigne.
C'est quelque chose qui me fait du bien et que je fais, encore une fois, quand j'en ai envie ou besoin. Après, s'il y a un écart, s'il y a de la boisson, enfin, je suis pas une, enfin, je serai jamais une ayatollah avec moi, ça, c'est pas possible, c'est moi, je comme expression. Mais, je fais selon mes besoins et mes envies avec mes travers. Je suis une gourmande. De la vie et de tout ce qui va avec. Je te vois surveiller l'heure, du coup je me perds.
je gère.
En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai jamais été un exemple du temps où j'étais sportive. Mon entraîneur a toujours considéré que j'avais toujours 2 ou 3 kilos de trop, et j'ai eu mes 2 ou 3 kilos de trop. Je me suis pas violentée, et j'ai pas fait n'importe quoi non plus, à part des crises épisodiques sur la nuit. Mais aujourd'hui, enfin, ça dépend des disciplines, mais il y a des disciplines, où, même les sauteuses en hauteur, je prends les sauteuses en hauteur, qui ont besoin d'explosivité, qui ont besoin d'être grandes, qui ont besoin d'avoir un rapport poids-puissance le plus faible possible. Il y a plein de fois où ça dérape et c'est plus du poids qu'elles ont. C'est flippant, mais quelle est la part de, est-ce qu'elles ont elles une problématique, ou est-ce que le sport, enfin, quand t'as un entraîneur qui vient te répéter, un entraîneur, je mets pas le bâton, hein, ou je ne sais qui dit, il faut que tu baisses ton poids de forme, il faut que tu baisses, et qu'on te mesure ce que tu manges, ce que tu, à terme, ça crée des vraies problématiques. Après, en demi-fond, je ne pense pas qu'elle s'affame. Je ne pense pas, je dis peut-être des bêtises. Parce qu'il y a un moment où tu peux plus courir.
Oui,
si t'as pas le carburant qui te permet de courir, tu t'assèches parce que tu ne fais que du sport tout le temps. Donc, si je cours 6 heures par jour, je perds 40 kilos, hein.
Ben, bien sûr.
Pour ça, je le fais pas.
Mais quand t'es athlète, c'est compliqué de, enfin, ça te fait sortir de ton plan, quoi, initial.
Quoi donc? Qu'est-ce qui te fait sortir?
De courir 6 heures par jour, si tu dois compenser des...
Oui, bien sûr. Non, mais il y a des aberrations. Moi, j'ai des souvenirs. Là, on n'est pas dans l'athlète, mais les sports qui ont un poids, judo, boxe, lutte. J'ai vu des pratiques à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, mais des gars qui tiraient plus bas que leur poids et qui 3 semaines avant un grand championnat doivent perdre 12-15 kilos.
J'ai rencontré Axel Clerget, il parlait de une capacité à perdre entre 5 et 7 kilos en 24 heures.
24 heures. Mon Dieu. Et oui, mais c'est fou.
Et en 48 heures, je crois que c'est 48 heures.
Personnellement, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu... Ok, tu vas tirer en dessous, mais d'abord, tu vas perdre ça, tu vas t'affaiblir, hein, tu vas te... Enfin, au niveau de ton organisme, tu lui dis « Attends, mets-toi en pause, s'il te plaît. »
Mais c'est que de l'eau, en plus, tu vois, donc tu te dessèches, quoi.
Ouais, mais derrière, avant la pesée, il y en a qui remangent comme... Enfin, juste après la pesée, il y en a qui remangent. Enfin, au niveau organisme, je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore là, à faire ça. Mais après, je suis pas judoka ni.
Bien sûr.
Donc peut-être que ça reste la meilleure solution de tirer plus bas dans une autre catégorie, mais ça fait mal au corps et je crois que le sport il est pas fait pour faire mal au corps. Il me semble.
La haute performance c'est peut-être autre chose.
c'est pas obligatoire que ça fasse mal. Tu peux pousser dans tes limites, tu peux aller loin. J'ai parlé de parfois vomir sur la piste, d'avoir des couteaux dans les jambes, mais ça veut pas dire se détruire.
Ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais qui dit haute performance, tu vois, dit aussi beaucoup découverte de soi, découverte des limites, comme tu l'as dit.
Pousser, c'est
forcément
ses limites. Ouais.
Il y a forcément du coup. Une part de peur et une part de souffrance quand tu dois agrandir ta zone de confort. Mais c'est un long départ.
Ouais, j'ai un peu de mal avec l'histoire de la zone de confort.
Est-ce que j'ai une dernière question parce que tu m'as dit que tu lisais, donc je serais curieux de savoir est-ce qu'il y a une lecture qui t'a particulièrement marqué ou que tu pourrais me recommander, tiens. Que t'aimes bien, justement, si on parle de quête d'équilibre, quête du bonheur, ça serait quel bouquin que tu recommandes?
Ah, mais je lis, mais c'est pas le genre de bouquin que je lis.
Tu lis quoi, alors?
Moi, je lis de la... Je lis pas mal de science-fiction.
D'accord. T'as un à me recommander? Je ne lis jamais de science-fiction. Donc, si tu estimes que je suis un complet débutant, pour moi, la lecture, c'est pas facile. Tu me recommandes quoi?
Je te recommande Laurent Or. Oh, c'est incroyable que j'oublie son nom de l'ami. Excuse-moi, hein, parce que c'est pas possible. Parce que c'est justement, c'est de la... J'aime pas la science-fiction.
D'accord, ok. Je comprends plus rien.
Non, mais c'est de la. Je suis en train de chercher son. Moi aussi, je fatigue. Hein, ça fait 2 heures qu'on parle.
Ben ouais.
Je suis en train de chercher comment on qualifie son écriture. Putain, elle veut regarder son téléphone sans ses lunettes. Elle a dit qu'elle était grand-mère. Elle assume l'aimer. Ah voilà, Laurent Whale.
Laurent Whale.
Voilà, j'ai jamais su. Whale. C'est des histoires fantastiques dans d'autres mondes, dans d'autres temps, mais ça se lit comme, et je te dirais, les naufragés du... Les naufragés de quelque chose.
Je le retrouverai. Ben, écoute, je mettrai le lien. Je suis curieux. Je vais peut-être essayer de m'y aventurer. Moi, je suis très exigeant en lecture parce que vu que c'est dur, je dois avoir peut-être 500 bouquins chez moi. Mais il y en a une très grosse part où j'ai lu que les 20 premières pages. Donc je te dirai ce que j'en ai pensé. C'est mon avant-dernière question. Je t'ai prévenu de quelle était la dernière sur tes recommandations, mais mon avant-dernière question, elle est un peu spirituelle, c'est de savoir est-ce qu'il y a un conseil que t'aurais aimé découvrir plus tôt? Pour être mieux dans tes bases, être mieux qui tu es, pour être plus épanoui.
Oh oui.
Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on me dise plutôt?
J'aurais aimé qu'on m'explique plutôt que d'apprendre à dire non. Parce que c'est une grande difficulté. C'est encore difficile. Mais ça fait partie de ça fait partie de tout un cheminement. J'ai souffert, j'ai pas eu mon papa est parti, j'avais 2 ans. T'as besoin de reconnaissance, d'être apprécié, etc., etc. Et puis surtout tu ne te donnes pas de place, donc c'est réponse à oui à tout. Tu aides la veuve et l'orphelin, tu acceptes plein de trucs, et puis après tu commences à dire oui. Mmh. Après tu dis oui. Et ça a été très long avant que je pose mon nom pour et c'est vraiment, enfin voilà, pour moi le nom, c'est redonner toute la valeur au oui. Et quand t'es ok, aligné avec ton nom, t'as même pas, parce que je suis passée par le non, parce que non, mais enfin justification, etc. C'est une histoire de le sport m'a donné une forme de confiance en moi. je dis bien une forme, parce que c'est, t'enfiles ton costume quand t'arrives, quand t'es sur le stade, mais quand tu ressors du stade, ton costume, tu l'as laissé dans le stade. Enfin, moi, c'était un peu ça. Donc, je redevenais assez réservée, assez timide. Mais ça m'a quand même, permis de me développer. J'étais une gamine malingre, machin. Dès que j'ai fait du sport, j'ai arrêté d'être malade, parce que j'étais beaucoup malade, etc. Le sport m'a appris énormément. Et en développement personnel, je vais finir par ce sur quoi j'ai commencé, quoi. C'est de toujours identifier ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, et aller vers ce qui te fait du bien, et éliminer petit à petit tout ce qui te tire vers le bas. C'est assez moche, mais c'est ça. Il y a des gens, il y a des situations, il y a des choses que tu fais malgré toi et qui te font du mal, alors que tu crois que tu fais du bien parce que tu aides, enfin tu le fais pour un tel, pour machine, pour truc, et ça veut pas dire que t'aides pas, que t'arrêtes d'aider les gens. C'est mon métier d'aider les gens. mais identifier tes besoins et ce qui va te faire kiffer. Bien sûr qu'au passage, il y aura des trucs que t'aimes pas faire.
Bien sûr.
Moi, j'aime pas faire ma compta. voilà, il y a des trucs que j'aime pas faire et que t'es obligé de faire. Mais qui est, kiffe ta vie, quoi, gars. T'as vu, je parle, je fais la jeunesse.
Mais t'es jeune.
Oh, ouf. Hop, dedans, pas de problème. Réveil le matin, ça traîne un peu.
C'est vrai, mais bon, c'est pas ça le plus important. Je pense que le plus important dans la jeunesse, c'est ce qu'il y a dans la tête, tu vois.
Oh, c'est surtout de la vivre, justement.
Ouais, c'est la vivre.
Pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est on a des vies à vivre et pas à traverser, quoi. C'est tellement... Et c'est pareil sur un stade, quoi. T'as décidé de tu veux être un champion. Eh ben, vis-le.
Ouais. Mais tu vois, je rebondis sur ça, et puis après on va conclure, mais sur le fait de trouver ce qui est bon pour toi et trouver ce qui est mauvais pour toi. Là, c'est ma petite amie qui m'a recommandé une méthode de bullet journal, tu vois, où tu peux un peu traquer plusieurs choses et noter ton bonheur chaque jour. Et donc elle a un tableau avec les 20 personnes qu'elle voit le plus souvent dans sa vie et elle note les jours où elle les voit, tu vois. Et sur devant chaque jour, il y a son niveau de bonheur. Elle s'est rendu compte que il y avait une personne en particulier que quand elle la voyait, son niveau de bonheur était plus faible. Tu vois, et même moindre. Et du coup, j'ai repris un peu sa méthode, tu vois, de noter un peu tout. Et moi, j'ai des trucs qui sont revenus, tu vois, bah typiquement j'ai remarqué que quand je médite pas, mon niveau de stress dans la journée, il est pas bien maîtrisé. Les jours où je fais des interviews, je suis très heureux aussi, parce que je rencontre des gens. Et j'ai un moment privilégié, en fait. C'est ça que j'aime, tu vois. C'est que on coupe le plus possible nos téléphones et puis on a une conversation profonde, tu vois, un peu deep. Et je trouve ça hyper intéressant. Et moi, j'arrivais pas à identifier tout ça. Et le fait de vraiment le noter, tu vois, dans un tableau... de suivre qui est-ce que je voyais les jours où je faisais du sport, les jours où je buvais de l'alcool aussi, le lendemain, catastrophe. Je pouvais avoir l'impression, juste une bière, même juste une pinte, le lendemain, j'étais moins heureux, plus stressé, plus d'énervement. Et ça, je le voyais pas, quoi. Donc maintenant, je le sais, je le faisais en âme et conscience, tu vois. C'est pas facile à faire, mais ouais, mesurer, et trouver cette liste. Et du coup, je te montrerai, j'ai dans mes notes, j'ai deux notes très importantes. Une qui s'appelle fierté de l'année, et je mets toutes les trucs donc dans lesquels je suis vraiment fier. Le fait de t'avoir rencontré y est, tu vois, c'est, il y a au moins 100 trucs dedans là, cette année. Et un autre truc qui s'appelle les listes des petits trucs à la con qui te rendent heureux, tu vois. Il y a, je sais pas, m'entraîner à faire le grand écart, faire un sourire à un inconnu dans la rue, donner un euro à un mendiant, tu vois, et c'est des petits trucs qui me donnent instantanément le sourire, tu vois.
C'est génial, mais les fiertés de l'année, c'est aussi un des travaux que des exercices que je donne très régulièrement de l'année ou de la vie. Et ce qui est fou, c'est que fierté ou grande joie, il y a des gens, quand tu leur dis faites-moi la liste des 20 plus grandes joies de votre vie, dans un premier temps, ils sont capables de penser et de dire mais j'en ai pas 20. Et alors si, quand t'en auras trouvé 10, tu auras trouvé 10 de plus, et après tu vas te rappeler le coucher de soleil que t'as vu à 5 heures du soir, à l'autre bout du monde. Et parfois c'est des petits riens, et c'est surtout cela. Moi je note mes joies de la journée, le soir, tous les soirs. C'est pas une histoire de gratitude machin, c'est que j'ai envie. Il y a des périodes où je le fais moins, et des périodes où ça va pas bien, je me dis tiens, ça fait un moment que t'as pas écrit tes trucs. T'as des jours où tu dis, si tu vas rentrer, t'as quelqu'un qui va dire, oh, t'as une sale tête, je passais une journée de schmout. le soir, même si j'ai passé une journée de schmout, je vais me dire non, parce que j'ai déconné avec la caissière ce matin et elle a éclaté de rire. Je suis allée me balader et il y a un oiseau qui m'est passé sous le nez. Il va y en avoir toujours. Et on a un tempérament et un fonctionnement qui voit plus facilement ce qui ne va pas.
Bien sûr. C'est ce qui nous a permis de survivre. Tu vois, être très alerte au danger. Tu vois, être alerte au danger, alerte aux mauvaises choses. Dans Sapiens, ouais, on en parle aussi via l'agriculture. On pensait qu'en planifiant notre quantité de nourriture, on allait se mettre en plus en sécurité. Résultat, on s'est sédentarisé, on a fait des monocultures, donc on a favorisé les infections dans les plantes, et on s'est mis à travailler 4 à 5 heures par jour. Avant, on cueillait la première heure de la journée, puis on arrêtait de manger. On a créé les plus grandes famines. C'est fou, hein. C'est fou, ça.
Ouais.
Plein de sujets passionnants. La toute dernière question que je pose.
J'ai toujours pas trouvé.
Monique me disait, lors du briefing, je lui dis la question, elle me dit, oula, ça va être dur, ça. Je lui dis, t'inquiète pas, ça va venir pendant le truc. Ça peut être, allez, je te donne des petits tips. Ça peut être les gens que t'as vus hier, les gens que tu vas voir demain, la dernière personne qui t'a fait beaucoup rire, la personne qui, avec qui t'aimerais bien passer plus de temps, tu vois, ça peut être des gens comme ça. Faut qu'ils soient athlètes, avoir porté le maillot de l'équipe de France au moins une fois. Et puis, si tu me dis qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller creuser, on ira.
Alors. Eh ben écoute, je te dirai Daniel Sangouma.
D'accord.
Tu sais qui c'est ?
Non. Je veux pas tous vous connaître, vous êtes trop.
Daniel Sangouma c'est la génération Split, il était dans le relais 4x100 qui a battu record du monde en 1990, l'année de ta naissance, au championnat d'Europe de Split.
Merci.
Et pourquoi je te parle de Daniel Sangouma ? Parce que hier soir, on a eu une discussion sur le syndicat et les groupements d'athlètes olympiens, de sportifs olympiens, c'est pas que l'athlétisme, qui négocient leur retraite. parce que aujourd'hui, la loi de 2011 ou 12, si je dis pas de bêtises, accorde des trimestres aux sportifs qui ont été classés plus de 4 ans en liste élite, mais à partir du moment où ils ont voté la loi, donc 2012. Parce que, ok, moi j'ai bossé, mais il y en a qui n'ont pas. Enfin, moi j'ai bossé à mi-temps, moi c'est déjà pas terrible, mais il y en a qui n'ont pas bossé, et il y en a qui ont été sur des listes élites dans des disciplines ou dans des sports où il y avait pas de sponsor, pas de machin, pas de truc, et qui sont allés décrocher une médaille parce qu'ils avaient envie de décrocher une médaille. Et donc ça a été ok, on considère que le sportif de haut niveau, il a comme je me demande si c'est pas les militaires qui ont des trimestres puisqu'ils arrêtent tôt, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais c'est qu'à partir de 2012, il y en a un paquet qui enfin il y en a d'avant qui ont Donc peut-être il y a, ça. Et autrement, tu m'as bien inspiré avec la soirée d'hier. Tu m'as dit que tu voulais poser des questions à quelqu'un. C'était sur quoi? Si tu peux me dire.
La chambre d'appel, peut-être.
Non, c'est bien avant. C'était sur
quelqu'un qui effectivement connaît tous les mécanismes pour se financer en tant qu'athlète.
Maggie Nastore de l'Agence nationale du sport. Elle est aujourd'hui, elle travaille à l'Agence nationale du sport et Nastore ET. Et c'était une ancienne coureuse de 100 mètres, 200 mètres et 4x100 de l'équipe de France. Elle connaît tout.
Trop bien.
Elle a été DTN. DTN du pentathlon.
D'accord.
Et
ça tombe très bien. Ouais.
Voilà.
Trop bien. Bah écoute, je voulais me rapprocher de l'ANS. Donc c'était, je vais faire une pierre deux coups. Si ça te dérange pas, si tu l'acceptes, on pourra se transmettre les coordonnées. Mais ça serait avec grand plaisir. tu as maintenant un deuxième record du monde à ton actif, un deuxième record de France. Aujourd'hui, c'est celui du podcast le plus long avec Barthélémy Fent sur Extraterrien. C'est pas mal. J'espère qu'un jour ça sera de notoriété publique, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais je te décerne ce record. Je te dis merci infiniment
pour
ce moment, d'avoir pris le temps. Je t'ai taquiné, mais on a quand même bien rigolé.
Mais oui.
C'était un bon moment.
Bah oui, c'était cool.
Je m'en repars.
Conversation, non.
Ok. Merci infiniment.
Merci à toi, Bart.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com